Hassan. L'émission d'Hassan. La société de l'astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles. Bienvenue à Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Alternante, 98.1 FM à Nantes, 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Pour Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Ce soir, une émission consacrée essentiellement à la conférence de Thierry Montmerle, qu'il a effectuée le mois dernier, dont on vous a parlé la dernière émission. Donc on va vous présenter, vous parler un peu de tout ce qu'il a fait, etc.
Le 12 octobre.
Le 12 octobre, pour être précis. Mmh. Merci Daniel. Et puis, on va aussi vous présenter la conférence de Willy Benz, qui, elle, va se dérouler le 16 novembre, c'est-à-dire le mois qui vient.
Sur la Lune.
Sur la Lune.
Donc, elle ne va pas se dérouler sur la Lune.
Non, le sujet va être sur la Lune. Par contre, le conférencier va être à Nantes.
Et nous, on sera dans la Lune.
Oui, dans la Lune, ou plutôt la tête dans les étoiles, au sens noble du terme, pour pouvoir en profiter un maximum. Donc, nous sommes en direct, comme d'habitude, ça se voit. Vous êtes avec la Société d'Astronomie Nantes.
Je ne vous dis pas le chantier. Thierry est en train de chercher ses papiers tout en vous parlant. C'est assez épique. Je te laisse nager dans ton jus, mon cher Thierry.
Mais je nage pas, je surnage. De toute manière, à la salle, on flotte. Voilà, tout de suite, nous allons commencer l'émission par vous parler un peu des petites nouvelles qui viennent de tomber ou qui sont plus ou moins importantes. Sur les, pas notamment au niveau du monde, mais sur la SAN et puis les événements à venir dans le mois de novembre et puis ce qui s'est déroulé dernièrement. On va peut-être commencer par une partie importante, une observation de prévue publique ce mois-ci.
Voilà, on va vous parler un petit peu des ciels de Nantes. Alors ça tombe bien puisque la première de ces soirées d'observation publique aura lieu le samedi 24 novembre. Alors, retenez bien cette date, le samedi 24 novembre, il y en aura d'autres, hein, il y en aura au mois de janvier, au mois d'avril, etc. Il y en aura 5 en tout jusqu'au 20 juillet 2002. Alors pourquoi ces soirées? Donc 5 soirées qui sont situées dans des samedis en période de quartier de lune, tout simplement pour vous permettre de regarder la lune. La lune est c'est un joli prétexte. On commencera par observer la lune, on ira voir aussi des planètes, des étoiles, des constellations, même des galaxies. Alors ce sera l'occasion de faire un petit tour dans le ciel. En fait, on va vous inviter à un voyage. Et ça nous a mis parce que quand on a fait la petite soirée derrière le planétarium à l'époque, en partenariat avec le muséum, au mois de juillet dernier, on a vu beaucoup de gens qui trouvaient ça très très sympathique de venir observer comme ça d'une façon tout à fait décontractée à la lunette, au télescope, aux jumelles, et en même temps on va leur expliquer des tas de choses, comment ça fonctionne, comment naissent, vivent et meurent les étoiles, à quelle distance se trouvent ces planètes, de quoi sont faits tous ces astres, toutes ces planètes. Alors, ça sera l'occasion de d'apprendre plein de choses sur le ciel, et les gens pourront aussi venir apporter leur propre télescope s'ils en ont un, et si par exemple
ça peut être lunette aussi, hein.
Ça peut être une lunette, jumelles, il faut venir avec ses jumelles bien sûr, parce que c'est l'occasion de voir tout ce qu'on peut faire avec des jumelles. Il y aura des animateurs, il y aura beaucoup d'animateurs de la Société d'Astronomie qui seront là pour vous expliquer. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure à partir de 21h. Il n'y a pas de programme. On va se faire un petit programme, mais quand vous venez à n'importe quelle heure, on va vous remontrer les choses qu'on a montrées à d'autres. Ne vous inquiétez pas, il y aura des télescopes, il y aura tout ce qu'il faut.
Il faut en profiter un maximum, parce que ça, on va espérer qu'il fasse beau, on va croiser les doigts. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Surtout en plus que là c'est vraiment ouvert à tous, on est là pour vous accueillir et puis pour vous guider au milieu des étoiles, pour en fait que les gens découvrent un peu le ciel et puis
Alors bien sûr c'est fait pour ceux qui connaissent déjà un peu le ciel, qui veulent en savoir davantage, pour ceux qui ont envie de le faire découvrir à leurs amis, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents, etc. Il faut venir en famille, il faut pas hésiter, hein, c'est ouvert aux enfants au contraire. Et bon, je vous ai pas dit où ça se passera. Ça se passera au parc du Grand Blottereau.
On a déjà beaucoup parlé dans les émissions présentes.
Oui, mais enfin, si quelqu'un prend l'émission aujourd'hui, on va lui rappeler que c'est au Grand Blottereau. C'est dans l'entrée principale où la Auguste Pénaud, alors où il y aura du fléchage. Et alors, quelque chose qu'il faut dire aux gens, même si vous connaissez le ciel, même si vous avez vu de très belles images à la télévision, venez regarder quand même, parce que rien ne remplace l'émotion qu'on éprouve quand on met l'œil pour la première fois un télescope à une lunette. C'est quelque chose d'assez inouï, et c'est pour l'avoir vécu et pour avoir entendu les gens nous le raconter. Donc n'hésitez pas, hein, venez, donc première soirée, le samedi 24 novembre prochain, au Grand Blottereau, à partir de 21h, et vous serez accueillis, et vous pourrez, comme ça, plonger à partir de la fenêtre qu'on va ouvrir dans les ciels de Nantes, plonger dans les profondeurs de l'univers. Un immense voyage à des années-lumière, et à des années-lumière de nos petits soucis aussi, et puis de ces tracas, et puis de cette bêtise qui règne actuellement sur le monde. Ça va vraiment nous faire un petit rafraîchissement. Hein.
Ça aère la tête au tous les sens du terme, et ça la remplit de bonnes choses. Merci Daniel. Bon, bien sûr, on va parler rapidement de la conférence qui va venir, c'est celle de Willy Benz. On va faire un peu une entorse à notre habitude d'inviter des Français à nos conférences.
C'est la première fois qu'on invite un étranger. Alors, c'est... Bon, pas seulement d'origine étrangère, parce qu'on aura des astronomes qui seront des uns d'origine polonaise. Vous savez que les sciences sont un peu internationales. Et il y a beaucoup de gens qui viennent en France, il faut le dire, hein, qui viennent parce que l'astronomie française est une des meilleures du monde. Il y a aussi des Français qui partent aux États-Unis, mais c'est souvent plutôt transitoire. Ils y passent quelques fois, quelques mois ou quelques années, puis ils reviennent en France. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent s'établir en France pour faire de l'astronomie. Et alors là, c'est la première fois, on va inviter un astronome suisse qui a travaillé avec Kellos et
Mayor,
voilà, le professeur Mayor, qui a découvert une planète extrasolaire, 51 Pégase.
La première en France d'ailleurs.
Une des premières qui a été découverte à l'observatoire de Haute-Provence.
Donc par, là, Willy Benz, par contre, il va nous parler de la Lune.
Alors, de l'origine de la Lune. Et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est
on
ça
On en parlera tout à l'heure. Voilà.
Ouais. On vous donnera des précisions parce que c'est une grande question, ça.
En parlant de questions, justement, quelle transition admirable. Voilà, vous savez qu'à chaque émission, on pouvait gagner des places pour les conférences à venir. Donc la prochaine, c'est le 16 novembre, excusez-moi.
Le 16 novembre,
à 21h, salle de Bretagne. Et donc là, il suffit de répondre à une question, on va mettre la fourchette assez large, qui va toucher de près à peu près la Lune quand même. C'est qu'on parle de l'origine de la Lune, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont marché sur la Lune. Et la question est aussi simple que ça, combien y a-t-il d'hommes qui ont marché sur la Lune? Vous nous donnez la réponse à deux près, et pour cela vous téléphonez au 02 40 93 26 62 02 40 93 26 62 et vous nous donnez la réponse et vous gagnez une place gratuite pour la conférence du 16 novembre sur l'origine de la Lune qui risque d'être très 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 bien.
Ah, elle sera magnifique. Et la salle, je pense, sera pleine. Et alors, tu as oublié de dire, Thierry, que si on se trompe une première fois, on peut rejouer.
Oui, hein, tout à fait.
On peut rejouer.
Pour vous aider, c'est moins de 50.
On peut tricher, on peut aller sur Internet pour voir, enfin, on peut faire ce qu'on veut, on s'en fiche, on a des places. Hein.
Tout à fait.
C'est pour vous amener à avoir cette conférence et pour que vous veniez en amenant des amis, enfin, c'est dans un but tout à fait intéressé, mon cher Thierry. Mais
intéressé, et puis je pense qu'on va découvrir aux gens les conférences.
Vous ne regretterez pas.
Et puis c'est agréable pour nous, on a quand même des gens qui ont adhéré suite à l'émission de radio. Donc
c'est un bon truc.
C'est un bon truc, et puis c'est une bonne façon de passer une très bonne soirée. Et autrement, ceux qui ne veulent pas décrocher leur téléphone, mais ils viennent et puis ils payent leur place au tarif normal.
Qui n'a pas augmenté depuis 1992, nous précisons.
Oui, c'est vrai.
Nous pratiquons une vraie politique des prix, on ne triche pas, nous.
Non, on va être obligé de les arrondir avec l'euro, mais...
Enfin, de très peu.
Oui, on les baisse.
On les baisse même.
On les baisse.
Il y en a qui baissent, le plat tarif baisse, très légèrement.
Donc voilà, donc autrement au niveau de la SAN, on a quand même été le mois dernier à la fête de la science, qui était quand même un bel événement.
Il y a eu du monde, oui.
Il y a eu du monde, donc on
était en fait, au village des sciences, au centre commercial Beaulieu.
Ah voilà, j'allais... Voilà.
Je te l'ai enlevé ?
Ça, tu me l'as enlevé, mais bon, c'est, je suis pas pardon, excuse-moi. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'on a fait là-bas à peu près au Village des Sciences ?
Au Village des Sciences, on avait un stand un peu comme depuis... Ça fait combien de temps qu'on y va maintenant au Village des Sciences ? 4 ans, 5 ans ?
Oui, par là.
Ça commence à dater.
Quelques années.
On posera la question à la prochaine émission pour gagner des places, mais là, on n'est pas sûr de gagner. Voilà. Donc, hein. Bon, ça fait longtemps.
Non, et donc, on a profité de l'occasion pour présenter un peu les techniques de fabrication des miroirs de télescopes, puisque, bon, les télescopes, il y en a des télescopes géants qu'on utilise.
On va rappeler que le thème, c'était, on était dans la partie qui s'appelait le thème, c'était l'image. Il y avait image, son, vidéo. Donc, on avait opté, je te laisse compléter après, on a opté effectivement pour présenter les deux phases, les deux parties finalement de l'imagerie astronomique, puisque en matière d'image, on peut dire que l'astronomie est reine. Hein. Alors, la partie acquisition, c'est-à-dire les instruments, les collecteurs de lumière, que sont les télescopes, et puis tout ce qui va derrière, les caméras, etc. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces images, la partie traitement.
Hein? Tout à fait. Non, mais donc on a un peu présenté les techniques de fabrication des miroirs et des télescopes, parce qu'un miroir, ça peut se fabriquer soi-même. À la SAN, il y a des adhérents qui fabriquent leur miroir tout seul, dans l'atelier de M. Lasseur.
Donc, avec de l'aide, ouais, avec de l'aide.
Avec de l'aide, mais bon, ça se fait.
Sous la conduite de.
Plutôt sous la conduite.
Je veux dire que c'est pas inabordable.
Non, puis ça bon, peut, après, ça devient son télescope, il coûte moins cher, etc.
Voilà. Et puis bon, mais une fois qu'on a fait son télescope, c'est vrai que derrière, y a le meilleur instrument optique qui est notre œil quand même.
Ça, on a beau le rappeler.
On peut pas faire mieux. Mais par contre, c'est vrai qu'il a des fois, il a des limites quand même, il va pas certaines. Il y a quand même une limite où on ne voit plus avec notre œil. Donc il y a des instruments comme les caméras CCD qui, elles, permettent de prendre des...
Les caméras CCD, c'est des espèces de caméras vidéo.
Sont les caméras numériques, en fait. C'est comme les webcams peuvent être classées dans les caméras
numériques. On numérise l'image et après, ça permet de l'intégrer dans un logiciel et de la travailler. Ouais.
Voilà. Et bon, une fois qu'on a pris des images, par contre, avec des caméras CCD, ce sont des images un peu brutes, même complètement brutes, et il faut les traiter. Donc là, il y a toute une technique, c'était présenté. Et puis on a aussi profité de l'occasion pour présenter une petite expérience qui était un peu amusante, qui est bien avec le thème de la Lune, puisqu'il y a nos adhérents à fabriquer une maquette de la surface du cratère Copernic sur la Lune. Et avec une petite caméra, pareil, on a fait un survol.
On balayait cette maquette en plâtre.
C'est vrai que ça donnait un peu l'impression d'un survol de la Lune, comme
l'image qu'on a eu d'Apollo.
En hélicoptère au-dessus de la Lune, même si en hélicoptère au-dessus de la Lune, c'est pas conseillé.
Non.
Et les gens disaient, comme certains disaient, mais enfin finalement, si on nous avait montré des leurres, en fait, des images qui étaient simplement des maquettes...
Il y a eu une polémique sur Internet par un allumé qui a décidé de voir que toutes les photos étaient truquées. Bon, après, ça a été cassé en beauté par un autre quelqu'un sur Internet, mais ça court toujours. Il y a toujours des gens qui croient que les gens n'ont pas été...
Un indice, la réponse à la question, ce n'est pas aucun.
Voilà, pour la question, pour gagner des places, ouais. C'est pas aucune personne. Il y a bien des gens qui ont été sur la Lune, ça, on est sûr.
Ah oui, la réponse, c'est pas zéro, c'est ça que je veux dire.
Ouais. Voilà.
Je comprends pas parce que c'était pas aucun, alors je me suis dit, c'est un peu comme Louis XIV, la devise de Paris, non inégale à plusieurs. J'ai jamais compris, je commence à comprendre, enfin, c'est un peu comme la relativité, ça met du temps. Hein.
Ouais, il y a des choses qui sont.
Alors, la transition est toute trouvée, mon cher Thierry, puisque je n'ai pas prévu d'en parler, mais j'en parlerai très peu. Vous savez qu'à la SAN, nous avons un petit groupe d'exploration théorique et on commence à comprendre la relativité. Je vais vous confier un secret, un scoop. Finalement, les planètes, elles ne s'attirent pas, comme on le croyait. C'est une façon de voir. Et finalement, il y a une autre façon de voir qui est encore plus élégante. Et quand j'aurai bien compris, je vous la raconterai. Mais je sais, j'ai compris maintenant pourquoi les rayons de lumière sont attirés par les planètes et par le Soleil, et par les corps massifs. Même si ça pèse rien, c'est attiré. C'est pas attiré. Ça suit la courbure de l'espace, et ça je peux vous le prouver, pourquoi que l'espace il se courbe, du moins de notre fenêtre. Et en fait, toute l'histoire de la relativité, c'est une histoire de perspective, ce que disait Laurent Nauthal. Et je crois que s'il y en a un qui a compris la relativité, c'est Laurent Nauthal. Et on commence à en parler, et je vous dis ça parce que tout le monde sait qu'on a fait venir Laurent Nauthal plusieurs fois dans nos conférences, et c'est vraiment pas pour rien. Et je crois qu'on a eu tout à fait raison.
On a eu le nez creux, comment dire.
On a eu le nez creux, je peux vous dire qu'on en parlera encore. En tout cas, à la SAN, on n'est pas en reste en matière de théorie.
On fait de la théorie, de la pratique, on fait beaucoup, beaucoup de choses.
On s'intéresse à l'astronomie.
Je vais juste rebondir sur la lumière, dont vient de parler Daniel, parce que la lumière, il y a juste une petite info, là, je voudrais vous livrer, qui est tombée...
Bing.
Oui, qui est tombée Bing ce soir. Vous savez déjà, quand on... pendant le ciel, au ciel de Nantes, on pourra s'en rendre compte, la Voie lactée à Nantes, c'est pas la peine de la voir. On ne peut pas la voir, puisqu'on a cette espèce de globe lumineux et de lampadaire qui font...
Mais il y a trop de lumière, il y a trop de pollution.
Il y a trop de pollution lumineuse. Et bien, il y a une étude très sérieuse qui dit que bientôt, ce sera les deux tiers de la population mondiale qui ne pourront plus voir les étoiles la nuit. Et qu'avant longtemps, ce ne sera plus aucune étoile qu'on verra, puisqu'il y a... Il ne faut pas se leurrer. La lumière que nous émettons par nos lampadaires, entre autres les globes qui sont en faux de mon jardin, ça c'est des catastrophes. Ces choses qui émettent 20% de leur lumière vers le sol et 80% vers le ciel. C'est très utile pour éclairer. Et
d'autant plus qu'il y a un cône d'ombre en dessous. Si vous regardez bien, un globe, ça vous éblouit. Donc quand il y a une agression, par exemple, dans une rue qui est éclairée par des globes, regardez bien, à quelques mètres, 50 mètres plus loin, vous ne voyez rien. Les agressions peuvent avoir lieu en toute tranquillité, parce qu'en dessous du globe, il y a un cône d'ombre en plus, ouais. Et en plus vous êtes ébloui. Donc c'est totalement nul. Ça c'est parce que les éclairages publics sont conçus, même pas par des ingénieurs, esthéticiens ou des architectes, mais par des vendeurs de lampadaires, on va le dire. Et les élus qui sont souvent pas conscients de... Bon, ils veulent faire bien, ils se disent, tiens, si on mettait des lumières, ça fait chic. Surtout les villages qui commencent à être riches, hein, ils inondent leur lumière à 3h du matin. Ça fait très bien, mais ça sert strictement à rien. Et alors, quelle pollution,
oui. Et c'est vrai que le phénomène est tout bête, mais... On n'y pense pas trop, c'est quand la lumière, vous l'émettez vers le ciel, au-dessus de nous, c'est pas vide, hein, il y a des particules, il y a des molécules, il y a des poussières, et ces poussières, ben, un peu comme le soleil éclaire la lune, et qu'on voit la lune parce qu'elle est éclairée, ben, les poussières elles sont éclairées par nos lampadaires, et on les voit très bien, et quand je pense que tout le monde a vu ce phénomène, quand on rentre de campagne et qu'on arrive vers une ville, la ville on la voit de loin parce que le ciel est orange. Ouais. Et sont les particules qui sont éclairées par nos lampadaires.
Voilà, pour résumer, mais ça sera l'occasion d'un débat lors d'une émission. Il y a moyen d'éclairer mieux, moins cher, beaucoup plus joli, et de ne pas polluer le ciel. Tout cela, c'est possible. La salle ne l'a pas encore fait, mais...
C'est une histoire, en fait, de savoir et de culture générale. C'est vrai qu'il y a des gens qui, je pense, des Parisiens, qui, ça se trouve, commencent à se poser des questions, parce que la fausse arc, les étoiles, on n'en voit quand même pas beaucoup à Paris, hein.
Oui, puis c'est un patrimoine.
Et quand on va dans les Alpes ou dans les Pyrénées, à monter à 2-3 000 mètres...
Il y a l'éducation aussi. Quelle éducation on peut faire avec les enfants ou les adultes si on ne voit plus une seule étoile
de ce qu'on peut raconter par rapport à plein de choses.
Mais bien sûr.
Et je pense qu'on est romantique, etc.
Je pense qu'on doit être moins bête quand on voit les étoiles dans le ciel quelque part. Il y a une relation. Il faudrait faire les statistiques. Les talibans sont sans doute nés avec un excès de lumière, c'est possible.
Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient des lumières.
Non.
Donc en fait, ouais, c'est vrai que là, apparemment, les statistiques donnent
que
ça va pas aller en s'améliorant.
Ça va pas aller en s'améliorant et que très, très vite, il n'y aura plus grand monde pour même croire que quand on est en montagne, la grande bande blanche dans le ciel, c'est un nuage. Non, ce n'est pas un nuage, c'est la Voie lactée. Mais on ne verra plus.
Bon, la SAN sera toujours là pour le rappeler. Voilà. Sur Alternante, il n'y a pas
de problème. Nous vous harcèlerons.
Tout à fait.
Voilà. Autrement, quand même, quelques petites nouvelles qui sont assez fraîches aussi. Il y a Mars Odyssey, la sonde qui est américaine qui ne s'est pas écrasée, comme quoi ça fonctionne bien quelquefois. Et donc, elle a fait ses premières images. Donc là, actuellement, elle avait pris après un retard pour un problème de ralentissement sur son atmosphère.
Elle n'a pas pris de retard, c'était volontaire.
Non, par rapport aux dates de base, elle a pris quelques jours de retard.
Tout à fait.
Et après, donc ils ont ralenti la sonde sur l'atmosphère. Et ils ont commencé à prendre des photos. Donc les photos sont arrivées sur Internet. Je pense que ça va devenir très intéressant. Puisque, en fait, notamment, ils ont une caméra infrarouge qui permet de mesurer la température. Et puis aussi, nous commencer à va rester, je ne sais plus combien de temps, en orbite. Mais je pense qu'elle va avoir de quoi s'occuper. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller sur Internet pour aller voir ces images.
En plus, qu'elle arrive à un moment assez propice, puisqu'on vous l'a déjà dit dans d'autres émissions. Mais en ce moment, sur Mars, il y a une tempête, comme on en a rarement vu.
Tout à fait, qui était observée.
Ça va être l'occasion d'observer vraiment très près.
Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Puis, c'est vrai que les sondes qui étaient avant, là, bien sûr, la définition va être plus importante, il y a plus de capteurs, etc. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant ce qui va arriver. Je pense que ce qu'il nous reste quelques petites choses à dire dans le mois à venir, il y a la conférence, les ciels du mois, le ciel de Nantes, pas le ciel du mois.
Il y a le programme La Société Astronomique, bien sûr, tous les vendredis, elle se réunit, et là, c'est l'occasion d'un exposé d'initiation, enfin, il y a plein de choses qui se passent à la SAN. Hein, donc,
tous les vendredis soir, nous on y est.
Si cela vous intéresse, venez faire un tour, et puis peut-être que vous deviendrez membre de la société, puisque c'est une société, je le répète de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui comprennent, ce n'est pas un club d'astronomes, c'est une société qui est ouverte. C'est pas un club fermé de gens qui on ne sélectionne pas, par exemple. C'est ouvert à tous. Même si vous n'avez jamais fait d'astronomie, vous pouvez venir et apprendre à en faire. C'est le vœu de Camille Flammarion. Ça a été dans les premiers objectifs de la première société qui est née au siècle dernier. C'est encore l'objectif d'aujourd'hui. Il y a une partie d'initiation, d'accueil. Hein. C'est notre vocation. C'est notre passion aussi. On aime bien partager avec les gens qui déjà ont un certain niveau. C'est plaisant. Mais communiquer cette passion à des gens qui découvrent, c'est encore beaucoup plus enthousiasmant. Donc voilà. Hein, donc venez. C'est tous les vendredis à la mairie de Doulon. Là, on le rappellera à la fin.
Juste derrière la mairie de Toulon. Voilà.
Bon, bah sur ce, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Si ? Non ? Non ?
Bien, mais écoutez, on va passer. C'est moi qui présente la suite, mon cher Thierry.
Si tu veux, je le présente.
Ah oui, mon cher Fabrice.
Non, mais... Donc, maintenant, nous allons passer à la première chronique de cette émission, Le ciel du mois, donc, par Thierry Monroe. Alors Thierry, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel ce mois-ci ?
Bah déjà, la seule chose à voir, il faut bien prendre votre calendrier, c'est le 24 novembre, c'est la date la plus importante du mois, il n'y a pas photo, c'est les ciels de Nantes, ça c'est la première info. Non, la vraie info, c'est qu'il y a quand même deux petites choses intéressantes en dehors de ce qui se passe tous les jours. Il y a les Léonides qui arrivent, Léonides, je vous rappelle que c'est des...
C'est un essaim,
non pas d'abeilles, mais de météorites, entre guillemets, ou de petites poussières, qui nous arrivent, en fait, qui nous paraît nous arriver du Lion. Une bonne métaphore, c'est quand vous roulez dans votre voiture, quand il neige ou quand il pleut, vous avez l'impression que toutes les gouttes d'eau, tous les grains ou tous les flocons de neige arrivent d'un point du ciel.
S'écartent devant votre pare-brise et convergent vers un point qui est devant vous.
Tout à fait. Et donc, en fait, apparemment, le point qui va arriver ici pour les Léonides, c'est justement, d'où le nom des Léonides, la constellation du Lion, qui en latin se dit Léo. Et oui, donc, c'est... en fait, vous arrivez à peu près, les poussières semblent arriver de la constellation du Lion.
C'est ce qu'on appelle le radiant.
Voilà.
Le point d'où. Et ça prouve aussi que la Terre est en mouvement. Parce qu'en fait, c'est le mouvement de la Terre.
Ils arriveraient tous au même endroit.
Mais voilà.
Donc là, en fait, c'est les Léonides qui vont arriver. Notez directement la date. C'est à partir du. On commence dès le 17 novembre, parce que à la Saint, on était un peu maudits les années précédentes. On n'arrivait jamais à les récupérer. Aller voir plutôt, ou voir les maximums, puisque en fait vous pouvez assister peut-être cette année à une pluie d'étoiles filantes, et c'est quelque chose d'assez phénoménal quand ça arrive.
Alors, les autres années, on l'avait annoncé, il y a toujours un maximum statistique qui est prévu.
Donc là, c'est
et
le...
en fait, il s'est produit la veille, méfiez-vous.
Donc, normalement, le maximum, c'est le 17. Donc il faut commencer dès vendredi. Le 17, c'est le samedi, pour essayer de les regarder tous les soirs en direction de la constellation du Lion.
Après la conférence.
Après la conférence, justement, nous derrière, on ira peut-être observer les Léonides s'il fait beau. Donc c'est vrai qu'il faut bien en profiter, puisqu'en fait, c'est un phénomène que là, par contre, on observe à l'œil nu. Ça peut permettre de prendre des belles photos.
Ça permet de faire des vœux.
Voilà. Et puis, en fait, d'avoir des belles choses qui arrivent.
On peut peut-être rappeler de quelle comète. En fait, c'est un essaim de poussière qui est né dans le sillage d'une comète qui tourne autour de la Terre. Je ne sais plus. Hein,
C'est Temple Total.
Du nom des deux astronomes qui l'ont décrite, qui l'ont découverte.
Parce que les comètes, en fait, c'est ceux qui la découvrent, qui prennent la comète prend le nom des découvreurs ou du découvreur qui l'a fait.
Les premiers, quand on est sûr que c'est eux, hop, ils prennent le nom.
Et autrement, une petite chose intéressante, il y a une éclipse sur Jupiter, par contre pas sur Terre. En sachant que, je vous rappelle, on est la seule planète du système solaire à pouvoir bénéficier d'éclipses totales, c'est-à-dire d'avoir notre satellite naturel dont on va parler tout à l'heure qui éclipse la totalité du disque solaire. C'est juste une effet de proportion, on a un gros coup de chance, hein, pour résumer. Donc là, c'est sur Jupiter, donc si vous avez un petit taxi avec des petites ailes, prenez-le, puis allez direction Jupiter, pour observer le phénomène, autrement il sera bien sûr visible de chez nous. Donc il faut quand même une petite lunette, voire un petit télescope plutôt, pour observer ce phénomène. Et donc là, en fait, c'est les CIO qui passent devant la planète. Et donc en fait, l'intérêt, c'est qu'on voit notamment l'ombre portée. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir une éclipse, qui est totalement vrai. Donc c'est vrai que c'est un phénomène intéressant, ça permet notamment de visualiser rapidement que, bien sûr, les satellites de Jupiter tournent autour de Jupiter, ce qui a donner l'idée à notre ami Galilée, quand je dis notre ami, façon de parler, de croire en fait que peut-être que le soleil était bien au centre et puis que tout le reste tournait autour. Autrement, bien sûr, quelques conjonctions. Les planètes importantes, vous avez Mercure et Vénus qui se lèvent le matin. Donc, par contre, un peu difficile à observer, bien sûr, parce qu'il faut être un lève-tôt vers 5h30 TU, ce qui nous fait à peu près 7h30 du matin. Donc, c'est un peu difficile. Autrement, les phénomènes importants, la nouvelle lune, c'est quand même important. C'est milieu du mois, ça va être simple à mémoriser. Donc, en plus, les Léonides, ça risque d'être très très bien, puisque la nouvelle lune est le 15. Donc, ce qui veut dire que le 16, à partir du 16, on va avoir un ciel très très noir. Donc, en fait, on va en plus en voir beaucoup plus que quand vous avez une lune très très blanche. En parlant de la lune, d'ailleurs, on a observé la semaine dernière, samedi dernier, un phénomène qui avait été annoncé à la dernière émission, qui elle s'est déroulée.
L'occultation.
L'occultation de Saturne par la lune, c'est-à-dire en fait que la lune passe devant la planète Saturne, et donc en fait, ça permet de faire des mesures sur certaines choses, et puis autrement rien que de profiter du phénomène. Donc c'était observé par pas beaucoup d'adhérents, je crois on est parti une trentaine, 26 adhérents, hein. Donc il y avait pas mal de monde qui ont été observer le phénomène. Je crois que c'était assez joli, Fabrice t'y a assisté,
c'est assez spectaculaire, c'est vrai que personnellement c'était une première, et c'est étonnant d'observer finalement. Déjà Saturne en tant que tel au télescope, c'est étonnant parce qu'il y a les anneaux, mais quand en plus derrière on voit les anneaux commencer à disparaître derrière la Lune, après la planète, les anneaux entièrement, puis l'ensemble réapparaît de l'autre côté environ un an plus tard, c'est assez étonnant et quelque part assez émouvant à voir.
Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à voir. Et puis donc autrement, vous avez une petite chose intéressante, il y a un astéroïde qui va arriver, qui a magnitude 6, donc qui limite la visibilité de l'œil, mais qui est possible avec une paire de jumelles. Donc en fait, le gros intérêt, c'est d'essayer de le voir. Alors je vais vous aider quand même pour vous repérer. En fait, il est en gros un tout petit peu plus bas que la constellation du Taureau. Et le plus simple encore pour le voir, c'est il est juste en dessous Saturne. Donc vous prenez une carte du ciel, vous regardez les étoiles, et si vous en trouvez une qui en fait se déplace, pas à l'œil nu, mais vous le verrez au fil des jours de vos observations, eh bien vous risquez de le voir. Donc le mieux, c'est d'avoir une petite paire de jumelles, et en fait ça permet de voir que on a aussi des autres objets qui nous tournent autour, ou plutôt qui tournent autour du Soleil pour être plus précis. Voilà.
Merci mon cher Galilée, oui.
Ouais, merci mon cher Galilée, oui, tout à fait. Donc, puis autrement, bien sûr, Mercure, Vénus, c'est visible. Mars va prendre un peu d'altitude, donc on la verra peut-être un peu mieux. Le Jupiter est du soir, c'est ce mois-ci, donc c'est ce qu'on va surtout voir. Et puis, bien sûr, Saturne, bien sûr, c'est la planète du mois, puisqu'on l'observe le soir. Aussi, et il faudrait que d'hiver est beaucoup plus agréable, puisqu'il est souvent beaucoup plus noir, étant donné que la nuit est beaucoup plus longue. Et en plus, si vous avez eu de la chance, qu'il a plu la veille, toutes les poussières qui étaient en suspension dans l'espace qui nous ont gênés ont disparu, ou plutôt on se les pris sur votre voiture. Pour ceux qui ont des voitures qui les lavent régulièrement, vous vous demandez des fois d'où est-ce que ça vient. Ça vient du ciel, donc fatalement, quand les poussières sont tombées sur Terre, et bien en fait, ça nous fait un ciel magnifique à observer. Donc, mettez une petite laine, voire deux petites laines, surtout pour les astéroïdes, hein, pour les météorites sur les Léonides. Il faut vraiment, vraiment se couvrir, puisque l'intérêt, c'est de rester plusieurs heures. Donc, si vous alliez en short avec des tongs, vu le froid qu'il fait, ça risque d'être un peu juste.
Le problème, surtout quand on observe, il faut y penser, on peut se mettre trois pulls, deux pantalons, penser aux pieds, parce qu'on se froid très vite par les pieds.
L'idéal, c'est les chaussures de ski, les après-ski. Hein.
Après-ski, ou alors une ou deux bonnes paires de chaussettes.
En fait, le type qu'ils ont attrapé à Toulouse, là, qui avait plusieurs sous-vêtements, c'était un astronome.
Ouais, c'est possible.
Si je comprends bien, oui.
C'est bien possible.
Voilà.
Donc c'est vrai que faut aussi penser, à la rigueur, en milieu de nuit, un petit chocolat chaud ou un petit café, ça réveille, ça permet de... Mais puis prenez des gants aussi. Hein.
Et apportez-en beaucoup, parce que vous aurez toujours quelques tapeurs à côté qui diront tu peux m'en passer un petit peu. C'est trop tentant.
Et puis si vous n'arrivez pas à voir l'état d'étoile double, vous y allez avec le vin chaud.
Et vous en verrez. Voilà.
Ou des grogs, et là normalement, ça devrait pouvoir le faire. Problème. Voilà, c'était l'essentiel du mois.
Merci Thierry pour cette présentation. Mais nous allons...
Bon, je m'y perds dans les chanteurs. Je ne me connais pas plus dans les chanteurs que dans les ornithorynques. Alors.
Donc. On ne va pas tout avoir. Donc là, c'était une petite chanson sur la nuit,
Ouais. Hein, au sens large du terme. Elle casse pas trois pattes à un ornithorynque, mais...
Quelque chose sur les ornithorynques aujourd'hui. Vous êtes avec la Société d'Astronomie Nantes pour Pulsan sur Alternante, 98.fm à Nantes, 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Pour une émission d'astronomie, vous pouvez vérifier, c'est la seule émission du monde qui parle d'astronomie.
Absolument, et qui est diffuse sur des ondes électromagnétiques,
voilà.
Radiophoniques.
Hertzienne.
Hertzienne, Hertz, ça veut dire le cœur en allemand.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est d'eau. Hein.
Ah bien sûr, nous parlons en direct du cœur.
Donc c'est vrai que... Donc là, Pulsan, c'est une émission mensuelle. Et donc on se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois. Et donc la prochaine émission, ça va être le premier lundi du mois de décembre.
Comme dirait Monsieur de la Palice. Oui. Si toutes les personnes qui sont ici ne sortent pas, nous serons encore nombreux dans cette pièce.
Tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, ça va, on est assez nombreux. Tout de suite, nous allons aborder le début de la conférence de Thierry Montmerle, plutôt le début du compte-rendu de la conférence de Thierry Montmerle, qui va nous être présenté, ou plutôt rappelé par Daniel Worling. Alors Daniel, qui c'est qui, quoi non, qui est venu nous voir le 12 octobre ?
Eh bien, c'était donc le vendredi 12 octobre où nous recevions pour la première conférence du cycle 2001-2002.
Un ancien conférencier.
Un de nos anciens conférenciers était venu en 1982, il me semble.
Ou, non, je crois que c'est 6.
86, tu as raison. Thierry Montmerle. Alors, il a un joli nom, hein, Montmerle, c'est sympa. Et alors, c'est quelqu'un qui, donc à l'époque, était jeune chercheur, qui s'occupait, alors sa conférence en 86 s'intitulait « Étranges étoiles ». C'est quelqu'un qui s'intéressait aux étoiles et dans la vie des étoiles, la profondeur des étoiles, de comprendre la physiologie, on va dire, des étoiles. Parce que les étoiles, vous le savez, ce sont des soleils, il s'y passe beaucoup de choses, il y a des fusions thermonucléaires. Selon la taille de l'étoile, c'est un petit peu différent, donc il y a beaucoup de phénomènes à étudier, et notamment... Les phénomènes que l'on ignorait beaucoup, parce que bon, jusqu'il y a quelques années, on connaissait surtout la vie des étoiles jeunes et matures. Mais les tout premiers stades de la vie des étoiles sont difficiles à observer, vous le savez, puisque d'abord c'est peu lumineux. Quand une étoile se forme par définition, elle ne rayonne pas encore. Pendant toute une phase de sa vie, elle est nuage, puis nuage de plus en plus concentré, puis ça rayonne de la chaleur. Toutes ces phases-là sont très difficiles à observer, sont petites, peu lumineuses, etc. On ne sait pas si ce sont des nuages de gaz ou des étoiles en formation. Et en fait, ce n'est que récemment, à l'avènement notamment des télescopes spatials, et aussi de toute l'astronomie des rayons X, rayons gamma...
C'est plutôt les satellites que
le télescope spatial. Les satellites, voilà. Le télescope Hubble nous a révélé des images de ces phases-là, voilà. Et ça a confirmé des modèles qu'on avait élaborés à partir des observations du rayonnement, des rayonnements X, etc. Et toute cette astronomie, on va dire, de l'invisible, s'est énormément développée au cours des 20 ou 30 dernières années. Il a fallu, évidemment, d'une part, disposer d'un modèle d'évolution stellaire qui soit à peu près cohérent. Et donc tout ça, c'est une convergence de résultats. Et en même temps, avoir des résultats fiables à partir d'observations satellitaires. Donc il a fallu sortir de l'atmosphère. Vous le savez, il y a des rayonnements qui ne passent pas dans l'atmosphère. Les ultraviolets,
par exemple, pour nous, d'ailleurs, les rayons
tout le monde le sait, qui passent très peu ou pas du tout. Alors on est très très gêné par cette atmosphère à qui on doit quand même la vie. Mais donc ces satellites qui sortent. Alors il y a notamment une série de rayonnements qu'on appelle les rayonnements X. Hein, les rayons X, tout le monde connaît. Ça a été utilisé en radiographie, en radioscopie pendant assez longtemps. Ce sont les rayons qui pénètrent la matière et donc ils traversent.
Ils sont aussi très très énergétiques.
Voilà, qui traverse des couches de matière. Alors, vous allez me dire, tiens, tout à l'heure, on disait que l'atmosphère est gênante. Bien sûr, ça traverse l'atmosphère, mais ce n'est pas très précis une fois que ça a traversé l'atmosphère. C'est perçant, mais ça n'est pas facile à observer. Alors, peut-être que je me trompe, les rayons X, ils traversent peut-être pas, mais peu importe. En tout cas, ces rayonnements-là...
sont inobservables de sur Terre.
Ils nous révèlent des fonctionnements, ils nous révèlent la vie de l'intérieur de l'étoile, et aussi des phénomènes, par exemple, quand un trou noir se forme, on ne voit pas le trou noir. Mais par contre, on voit les phénomènes extrêmement violents qui sont engendrés par le trou noir en formation et la matière qui se précipite dessus.
Fabrice en parlait tout à l'heure dans les Actu Astro.
Voilà, donc, alors, nous avons souhaité que Thierry Montmerle nous parle de tout cela. Alors,
pour résumer, en fait, on on connaît les grandes phases d'une formation d'une étoile. On se déporte, c'est un gros gaz. Après, ça se contracte.
Ça, on le savait.
Hein, voilà. Et en fait, on connaît les grandes étapes. Donc, gros, un gaz, des poussières, etc. Ou des gaz qui se contractent. Ça fait à un moment, les réactions thermonucléaires s'allument. Ça fait une étoile. Et puis voilà. Puis après, ça vit, ça meurt. Vrai que les étapes intermédiaires, et puis il y a des phénomènes qui ne collaient pas par rapport aux observations
par rapport à la théorie. Voilà. Il y a d'une part, on ne savait pas vraiment le temps que ça prenait, s'il y avait des phases d'accélération. Alors, en même temps, il faut peut-être rappeler qu'une étoile se forme à partir, tu l'as dit, d'un nuage de gaz, donc essentiellement d'hydrogène, 80% d'hydrogène, qui va se contracter de plus en plus. Ça va être exponentiel parce que plus le grumeau, plus l'embryon d'étoile est contracté, plus il va attirer l'hydrogène qui se trouve autour, donc ça va se précipiter. Et à un moment donné, dans le cœur de l'étoile, les atomes d'hydrogène sont tellement proches qu'ils sont comprimés, qu'ils vont fusionner, ils vont se souder, hein. C'est ce qu'on appelle une réaction thermonucléaire. Et donc, il va y avoir une perte de masse qui va se transformer en énergie. C'est la fameuse équation d'Einstein, delta E égale delta MC2, hein, égale MC2. Et paf, l'étoile s'allume, comme on dit, mais ça s'allume pas s'il n'y a pas d'oxygène.
Donc là, lui, il s'occupe plus, Thierry Montmerle, de la partie du début de
la formation. Voilà, la conférence s'appelait Embryon d'étoile et bébé soleil. C'était pour montrer d'une part que toutes les étoiles sont des soleils, que les embryons, ces embryons sont loin d'être calmes. Il se passe des phénomènes extrêmement violents, des jets de matière qui partent extrêmement loin de l'étoile. C'est très intéressant cette phase-là, puisque vous le savez, c'est à ce moment-là aussi que vont se former les planètes. Donc les systèmes extrasolaires dont on parle beaucoup, on en a découvert 47 actuellement. Eh bien finalement... Oui, 47, mon cher Fabrice, si. C'est Thierry Montmerle qui me l'a dit. Peut-être que depuis la semaine dernière, il me fait des signes désespérés. Non, je ne me trompe pas.
Non, ça calme.
Interview. Je vous présente rapidement Thierry Montmerle. Hein.
Parce qu'en fait, tu vas en reparler après dans l'interview, je crois.
Je le présente dans l'interview.
Tu présentes un peu après dans l'interview.
Simplement rappeler qu'il a travaillé sous la direction d'Evry Schatzman.
C'est ce que tu mets dans l'interview. Hein,
et donc, il a fait des recherches sur les phénomènes à haute énergie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous l'a dit, il le dira peut-être dans l'interview, c'est que les rayonnements X ont été très peu, n'intéressaient pas les astronomes pendant longtemps. Et ça, c'est né, en fait, c'est comme beaucoup de choses, hein, je crois que c'est les radios amateurs qui étaient gênés par ces rayonnements X, enfin. Et peu à peu, ça intéressait les astronomes, on savait pas quoi en faire. Et puis, pof, maintenant, on a beaucoup de choses à dire dessus.
Alors, c'est une interview que tu as réalisée
lors de la conférence. Avant la conférence.
Malheureusement, on n'a pas l'interview d'alternance, on a un problème technique au niveau du...
Oui, alternance avait réalisé dans la semaine une interview téléphonique qui était très intéressante et qu'on vous passera lors d'une prochaine émission.
On va passer à la prochaine émission. Oui. Donc là, on va attaquer directement l'interview que tu as faite le soir même. Avec Thierry Montmerle, bien sûr, qui répond à tes questions.
Vous allez parler de phénomènes à haute énergie dont vous êtes devenu un des grands spécialistes. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de ces phénomènes ?
Écoutez, ce qu'on appelle aujourd'hui les hautes énergies en astrophysique est à la fois une histoire ancienne et récente. D'abord, il faut se replonger dans la physique en général. Les hautes énergies en physique, c'est tout ce qui concerne la physique des particules, la physique des atomes, en fait de la physique qu'on fait bien souvent au laboratoire dans des accélérateurs. On accélère des particules, on accélère des électrons, on produit des rayonnements X, des rayonnements gamma, etc.
Ce qu'on appelle aujourd'hui les collisionneurs, non, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Disons que les hautes énergies dont je vais parler ne sont pas aussi élevées que celles qu'on obtient dans les collisionneurs, mais disons c'est plutôt de la physique telle qu'on l'a fait au laboratoire ou dans des grandes installations comme le SRF à Grenoble, bientôt peut-être Soleil, en face des fenêtres de mon bureau à Saclay, c'est-à-dire des rayons X assez énergétiques, mais qui sont aussi produits par des électrons et du rayonnement cosmique. Voilà un petit peu le contexte. Donc c'est au départ un contexte de physique.
Alors effectivement, vous étudiez des phénomènes naturels plutôt que des phénomènes produits en laboratoire, bien sûr.
Oui, tout à fait. Donc c'est la rencontre entre cette physique-là et l'astronomie, je dirais, plus traditionnelle. C'est-à-dire que l'astronomie, ce que j'appelle l'astronomie traditionnelle ici, dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, mais disons plutôt historique, c'est l'astronomie optique avec les grands télescopes, c'est aussi la radioastronomie quelque part, c'est un petit peu l'astronomie infrarouge dont je parlerai pas mal dans la conférence, parce qu'il faut quand même comprendre, donner un sens astronomique à ces hautes énergies, mais c'est surtout l'émergence de l'astronomie spatiale, parce qu'on ne peut faire des hautes énergies en astronomie qu'en utilisant des moyens spatiaux.
très bien. Et en fait, ces phénomènes sont produits par quoi dans la nature? Là, vous avez parlé, bon, en laboratoire, on peut les provoquer. Et dans la nature, en astronomie, dans les astres, par quels astres et par quelle partie des astres sont-ils produits, ces phénomènes?
Alors, vous avez, grosso modo, deux grandes familles de phénomènes à haute énergie. Les phénomènes qu'on appelle thermiques, c'est-à-dire qui sont produits, je dirais pour simplifier, par des températures extrêmement élevées, de l'ordre de millions de degrés à la centaine de millions de degrés. Ça, il y a beaucoup d'objets en astrophysique qui émettent ça, à commencer par les étoiles, dont je parlerai beaucoup ce soir. Mais vous avez aussi les amas de galaxies, par exemple, qui sont les plus grandes structures de l'univers, qui ont des températures de l'ordre de 100 millions de degrés, c'est-à-dire des volumes de gaz absolument énormes. Donc ça, ce sont des matériaux qui sont chauffés. On les appelle thermiques parce qu'ils sont chauffés. Alors, ils peuvent être chauffés par toute une variété de phénomènes, des ondes de choc, par exemple, dans les étoiles et dans le Soleil, ce sont des phénomènes magnétiques qui fournissent l'énergie qui chauffe les gaz. Dans les amas de galaxies, c'est plutôt les galaxies qui parcourent à toute vitesse le gaz entre les galaxies. Donc, vous avez des mécanismes de chauffage, un petit peu comme être au coin du feu, mais évidemment, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus violent. Mais vous avez à côté de ça toute une grande famille de phénomènes de haute énergie qui sont les phénomènes dits non thermiques, c'est-à-dire qui ne résultent pas de processus de chauffage au sens où je l'ai défini, mais plutôt de processus d'accélération de particules. C'est-à-dire que là, vous avez des phénomènes tout à fait particulier, où les particules ne peuvent pas se réduire à une température. On ne peut pas leur donner une température, on leur donne bien souvent une énergie et ce qu'on appelle un spectre d'énergie, c'est-à-dire une répartition d'énergie qui est tout à fait différente de celle des phénomènes thermiques. Et là, vous avez d'autres phénomènes, des ondes de choc, vous avez des phénomènes d'accrétion, par exemple, dans les trous noirs ou les étoiles à neutrons, quand vous avez un disque qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est la matière qui se précipite à l'intérieur, elle se précipite tellement violemment qu'à ce moment-là, vous avez des ondes de choc qui peuvent accélérer des particules. Et quand je dis particules, c'est la plupart du temps des électrons qui sont portés à des énergies ultra-relativistes. Donc c'est un autre domaine, c'est la deuxième famille. Mais évidemment, dans la mesure où sur le plan de l'astronomie, vous détectez de la lumière, vous détectez des photons, des grains de lumière, les techniques sont les mêmes, mais vous avez des moyens de distinguer les deux grandes familles les unes des autres.
Oui, donc là, Thierry Montmeyer fait un point sur l'origine de ces rayonnements un petit peu. Il va d'ailleurs compléter cela tout à l'heure, oui. Notamment sur la genèse de ces rayonnements. Ces rayonnements ne naissent pas comme ça de rien. C'est simplement parce qu'on a affaire à des particules. Donc, quand on parle de particules, on s'expliquera dans une autre émission. Ce sont des ondes, tout cela, ça se mêle, en fait, c'est la même chose. Et simplement, les interactions entre la matière et ces particules vont les accélérer, un peu comme dans les accélérateurs de particules. Et donc là, c'est là que se génèrent ces rayonnements extrêmement violents. Donc on va simplement continuer l'interview maintenant.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous passionner pour ce genre de phénomène dans votre carrière, dans votre passion? Parce que la carrière d'astronome ne peut pas être exempte de passion.
Absolument. Alors, c'est un cheminement assez drôle, finalement, qui partait de travaux, finalement, très abstraits que j'avais commencé à faire avec Evry Schatzmann et Jean-Claude Péquer, du reste, qui consistait à faire de la cosmologie, c'est-à-dire la connaissance de l'univers, à partir de modèles où il y avait des annihilations entre matière et antimatière. Alors, ça paraissait très exotique, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était très, dont je parle dans les années 70, là. C'était très étudié notamment au CERN, là où on fait les grands accélérateurs de particules. Et la raison en était que dans l'univers, on venait de découvrir des rayonnements gamma, donc à très haute énergie, une espèce de ce qu'on appelle le fond diffus, c'est-à-dire que l'univers dans son ensemble, sans qu'on puisse parler de source, émettait du rayonnement gamma. Et une façon de le produire, c'était matière-antimatière.
Ce rayonnement gamma, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile à 3 Kelvin?
Alors, il y avait peut-être à l'époque, dans les théories qui étaient en vogue, qui ne le sont plus actuellement, hein, je vous le précise tout de suite, c'était une forme de fond diffus. C'est-à-dire que le rayonnement fossile à 3 degrés K, c'était aussi le reste de la formation des galaxies, disons, à des décalages valeurs extrêmement élevés. Là, ce rayonnement gamma aurait eu lieu, dans ce cadre de ces théories, beaucoup plus tard, mais encore très tôt par rapport à nous, c'est-à-dire dans les premières minutes qui ont suivi la création de l'univers. Et donc, à partir de ça, c'était, disons, mon introduction au monde des hautes énergies. Bon, finalement, je trouvais ça, d'abord, ce genre de théorie n'a pas été vraiment vérifié par l'observation, donc ça m'intéressait moins. C'était devenu un petit peu abstrait, un petit peu sec, bien que l'exercice intellectuel ait été intéressant.
Un petit peu spéculatif, en quelque sorte.
Disons, un petit peu spéculatif à la mesure des observations très rares et très difficiles qu'on avait à l'époque. Alors, petit à petit, je me suis orienté, alors là, c'était sous l'impulsion d'Hubert Reeves, par l'explication de certains phénomènes qui auraient pu avoir lieu aussi en cosmologie dans des interactions de particules, alors cette fois-ci dont la signature aurait été des raies d'émission gamma, enfin là encore des choses un petit peu spéculatives mais peut-être un tout petit peu moins, et liées à l'origine des éléments légers qui à l'époque était une des grands sujets que Qbert étudiait. Et puis petit à petit, tout en étant avec cette familiarité avec les expériences spatiales, avec le rayonnement gamma, on en est venu à s'intéresser à ce qui se passait dans notre galaxie, parce qu'en même temps, les satellites montraient que notre propre galaxie était émetteur de rayons gamma. Et c'est en cherchant l'explication d'une source gamma située dans la constellation d'Ophiuchus, à côté d'Antares, que le déclic s'est fait et qu'en prenant des rayons X pour essayer d'identifier les sources, on a découvert ces fameuses étoiles jeunes émettrices de rayons X. Et disons que là, c'était vraiment un tournant, parce que là, on avait des observations précises, extrêmement nouvelles, tout à fait fascinantes. Et c'était vraiment une découverte, et donc ça a finalement été la chose que j'ai fait. Donc d'une certaine façon, j'ai suivi un chemin qui est tout à fait à l'envers de beaucoup de gens qui partent, disons, du voisinage du Soleil ou des étoiles, et puis ensuite qui petit à petit vont vers la cosmologie, vont l'univers, donc suivent l'expansion de l'univers en quelque sorte. Moi, j'ai fait le contraire. Je suis arrivé vers des choses de plus en plus proches, et vous verrez que ce soir, je vous parle même de météorites, c'est-à-dire vraiment ce qui est des choses qu'on peut ramasser dans les champs, avec un peu de chance, bien sûr, et je vais vous montrer la filiation qui peut y avoir avec ces phénomènes à haute énergie dans les étoiles jeunes.
Ce qui prouve une fois de plus qu'on peut très bien étudier des choses qui paraissent banales pour parvenir à des connaissances tout à fait fondamentales qui concernent l'ensemble de l'univers.
Alors, voilà, donc vous voyez ce chemin est un petit peu bizarre, mais enfin, il faut bien reconnaître que c'est pas seulement une vue de l'esprit ou quelque chose, une démarche intellectuelle, je dirais, profonde et mystique. Hein. C'était vraiment suivre d'au plus près les progrès des observations qui nous menaient un petit peu par le bout du nez pour nous mettre sur le doigt sur des phénomènes de plus en plus précis, de plus en plus concrets d'une certaine façon, et trouver des sources et des choses comme ça. Donc c'était vraiment en parallèle avec les découvertes observationnelles.
Ce qui m'amène à ma question, effectivement, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui qu'autrefois ? Je suppose que oui. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Est-ce que c'est très récent ? Est-ce que, notamment le satellite Hubble, est-ce qu'il nous a beaucoup apporté dans ces domaines-là ? Et d'autres, bien sûr, tous les satellites qui mesurent tous ces rayonnements, ultraviolets, infrarouges, etc. Avant cela, juste, j'aimerais que vous me précisiez, ces rayons X sont produits par les étoiles, je crois, elles-mêmes, alors que d'autres rayonnements sont produits par les enveloppes.
Voilà, alors donc là c'est une sorte de sous-famille de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les étoiles et les étoiles jeunes en particulier produisent des rayons X un petit peu à la façon du Soleil, et je vais passer un petit peu de temps pour expliquer d'où viennent les rayons X du Soleil, qui ont été en fait les premiers historiquement à être découverts, et ça remonte juste après la Deuxième Guerre mondiale avec des expériences en fusée. Donc en fait c'est une expérience assez ancienne mais qui avait été faite à l'origine par des physiciens et non pas des astronomes, ça a mis beaucoup de temps à pénétrer la communauté des astronomes, et puis dans les proto-étoiles, alors il y a des phénomènes supplémentaires qui peuvent se produire, alors qui ont lieu, mais qui sont toujours des phénomènes, à notre avis, d'origine magnétique, c'est-à-dire un petit peu, en imaginant que le champ magnétique soit composé d'élastiques, disons des élastiques qui claquent les uns après les autres, parce qu'ils sont tirés par de la matière en effondrement.
Alors effectivement, donc poursuivons la question que je vous avais posée donc juste avant. Comment est-ce qu'on mesure ces rayonnements ? Est-ce que maintenant on a des moyens de détection bien plus puissants ? Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses dans la dernière ou dans les deux dernières décennies, par exemple ?
Alors, on a appris énormément de choses à partir du moment où on a pu aller dans l'espace. Disons que ça, je pense que c'est la première étape. Disons, lorsqu'on parle de rayons X et même de rayons gamma, on ne peut pas le faire du sol. Il n'y a aucun moyen de le faire du sol. Hubble est un cas un petit peu particulier. C'est-à-dire que la raison pour aller dans l'espace n'était pas liée au fait qu'on ne voit pas, le visible du sol, puisque bien sûr, on en fait l'expérience tous les jours, on peut voir le visible, mais on sait que l'atmosphère produit des turbulences, et donc le but, c'était d'aller dans l'espace pour s'affranchir de ces turbulences. Bon, maintenant, l'ironie de la technologie fait que les grands observatoires au sol comme le VLT ou ou le Keck à Hawaï sont munis de dispositifs de correction de la turbulence atmosphérique qui font que maintenant, disons, le télescope Hubble et les grands télescopes au sol sont assez compétitifs dans un certain nombre de domaines. Mais il reste des domaines qui sont difficiles, voire impossibles à étudier du sol. L'infrarouge en est un autre, du reste. Et donc, on peut dire que c'est l'astronomie spatiale qui a véritablement ouvert des fenêtres entièrement nouvelles à l'astronomie. Et il y a encore des fenêtres qui sont fermées. Par exemple, dans l'infrarouge lointain, on se prépare, et dans mon laboratoire à Saclay, par exemple, on se prépare à lancer un satellite en 2007 qui sera consacré à l'infrarouge lointain dans un domaine spectral qui est complètement absorbé par l'atmosphère. Donc là encore, on a ce problème soit d'absorption, comme les rayons X ou gamma, soit même d'émission, c'est-à-dire dans l'infrarouge proche, par exemple, à quelques microns, disons l'infrarouge que vous utilisez pour essayer de percer le brouillard, par exemple, eh bien l'atmosphère elle-même est trop chaude, elle émet dans ces rayons A, donc on est ébloui par le ciel et on a beaucoup de mal à voir les sources au travers. Donc c'est pour des raisons qui sont quelquefois toujours un petit peu différentes, mais qui ont tout autre trait à la présence de l'atmosphère. Alors évidemment, l'ironie du sort consiste à dire que l'atmosphère est un problème pour les astronomes. Bon, il ne faut pas oublier quand même que les astronomes respirent comme tout le monde et qu'on a quand même besoin d'atmosphère. Mais disons qu'on essaie de se donner les moyens de s'en affranchir, autant de faire se peut, et il y a des domaines bien spécifiques dans lesquels on a fait des progrès énormes grâce à ça.
Alors on va faire un petit retour là dans ce deuxième break de cette interview de Thierry Montmerle qui a été prise donc le 12 octobre dernier. Un petit break pour rappeler un peu les fenêtres qui s'ouvrent à nous sur l'univers. Thierry Montmerle a beaucoup parlé.
On parle pas du tout d'un logiciel buggé qui vient de sortir.
Non, je connais pas.
Windows. Allez, vas-y, continue.
Les fenêtres. Et en fait, non, je connais pas non plus.
Oui, mais il vient de sortir une nouvelle version, c'est pour ça que je dis ça, que ça n'a aucun rapport.
Donc ces fameuses fenêtres sur l'univers, c'est une image pour dire que quand nous regardons le ciel, eh ben, la plupart des gens pensent effectivement à l'astronomie visible, hein, des rayons visibles, on voit les... D'une part, on voit les lumières, et on voit aussi maintenant les couleurs, etc. Mais il n'y a pas que les rayonnements visibles qui nous parviennent du ciel. Il y a tous ces rayons X, rayons gamma, etc. Et c'est vrai que ces rayonnements invisibles, par conséquent, nous révèlent d'autres aspects, des aspects peut-être plus, en tout cas, beaucoup plus importants du ciel, puisque ça couvre une gamme de fréquences beaucoup plus importante. Donc, on a là accès à des phénomènes qui sont qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de ciel.
Donc le voilà, intérêt aussi, c'est en fait d'observer le même phénomène selon différents rayonnements, puisqu'on apprend des choses différentes.
Voilà, on voit
notamment, pour prendre l'exemple le plus simple, c'est comme là, on parlait tout à l'heure de la sonde Mars Odyssée qui prend des photos de Mars. Ouais. Ils vont prendre les mêmes photos avec une caméra infrarouge. Donc là, quelque chose de noir, à la rigueur que vous verrez dans le visible qui est noir. Ça peut être soit quelque chose de très froid, soit quelque chose de très chaud. Si vous l'observez en infrarouge, vous avez une information supplémentaire. Voilà. Et donc après, vous avez encore les rayons X, les rayons gamma, etc. Donc c'est vrai que l'intérêt, c'est d'observer des phénomènes. Et il y a aussi des phénomènes, bien sûr, qui sont inobservables dans certains rayonnements. Et donc, qui sont, par exemple, plus visibles que dans les rayons X. C'est un peu paradoxal, mais qu'on ne voit que dans les rayons X.
Alors l'infrarouge, ça nous révèle les aspects thermiques. Et Dieu sait s'il y en a, et c'est souvent un corréla d'une activité, et ça peut révéler beaucoup de choses de thermique. En tout cas, c'est aussi un moyen de sonder en quelque sorte au-delà de la surface des astres. Donc voilà l'intérêt de cette astronomie de l'invisible qui se développe considérablement, comme l'a dit Thierry Montmerle, à partir du moment où on a pu sortir de l'atmosphère. Alors on va écouter la dernière partie de cette interview.
J'aimerais vous ramener un petit peu au sujet de votre conférence, dont le titre est assez amusant. Vous l'avez choisi, Bébé Soleil. C'est un peu anthropomorphique, mais nous ne sommes pas dupes. Hein. Nous savons que les étoiles naissent. Bon, pourquoi pas parler de bébé, d'embryon ? Parce que non seulement, si on parle d'embryon, c'est bien parce que ça fait vraiment très peu de temps qu'on sait ce qui se passe dans les toutes premières phases de la vie des étoiles. C'est un petit peu de ça dont vous allez parler. C'est là qu'il y a des phénomènes extrêmement violents.
Voilà, alors ce sont des embryons qui remuent beaucoup. Disons que l'analogie est bien sûr anthropomorphique, c'est un clin d'œil, mais aussi ça représente un petit peu la proportion des âges et des durées de temps des phénomènes que je vais décrire. Les proto-étoiles, on appelle proto-étoiles des cocons dans lesquels des objets sont en train de se condenser, sont en train de s'effondrer pour donner des étoiles. Et ça, c'est des objets qui ont 10 000 ans. Et ces 10 000 ans doivent se comparer aux milliards d'années, qui est l'échelle de temps de la vie du Soleil. Donc c'est extrêmement bref, donc l'analogie n'est pas complètement fausse. Disons, sur le plan mathématique, elle se défend assez. Et ensuite, on a des étoiles qu'on appelle tétories, dont les âges sont plutôt de l'ordre du million d'années, donc encore un millième de leur vie future. Donc tout ça, ce sont des âges extrêmement précoces. Mais comme chacun sait, l'enfance est très turbulente et vous verrez que dans les étoiles jeunes, il se passe effectivement des tas de phénomènes qui sont très paradoxaux. Par exemple, le phénomène capital qu'on a découvert il y a maintenant une petite vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'est que on pensait naïvement, à l'instar de Laplace, que pour former une étoile, il fallait simplement trouver un moyen de rassembler de la matière dans les étoiles, ce qui n'est pas évident parce que comme elles tournent, la force centrifuge à une certaine limite, on voudrait plutôt à éjecter de la matière. Et là, on voit qu'il y a des phénomènes de jet, c'est-à-dire des phénomènes d'éjection très concentrés. Et donc, on arrive à ce paradoxe que pour former une étoile, il faut rassembler de la matière, mais pour rassembler de la matière, il faut en éjecter au moins une certaine proportion. Donc ça, c'est une découverte qui a complètement débloqué le problème de la formation de l'étoile, dans lequel il faut bien dire que même sur le plan théorique, on avait très très peu d'idées. Et là encore, c'est l'observation qui a déclenché les travaux théoriques. On n'avait pas, disons, d'idées théoriques très justes sur la formation des étoiles avant ces observations.
Ma petite question perfide, pour finir, est-ce que d'étudier les jeunes étoiles, ça permet de rester jeune?
Bah écoutez, je pense que d'écouter toutes les étoiles permettent de rester jeune, même les vieilles. Les vieilles, je vous rappelle qu'elles explosent, qu'elles font des supernovas, qu'elles font des trous noirs, des étoiles à neutrons, tous sujets qui sont extrêmement chauds à l'heure actuelle. Et donc on peut dire que l'astronomie crépite de plein d'objets. Mais c'est vrai que, disons, moi ce qui m'attire pas mal dans cette étude des objets jeunes par rapport à d'autres sujets, c'est que c'est un petit peu la quête des origines. C'est la quête de l'origine du Soleil, du système solaire. Au-delà, c'est la quête de l'origine par les galaxies. Et au-delà, c'est la cosmologie et la formation de l'univers. Donc c'est toujours cette démarche un petit peu historique qui essaye de remonter, autant que faire se peut, le temps avec des moyens scientifiques concernant les étoiles.
Sans oublier que lorsque les étoiles explosent, elles éjectent leurs éléments et c'est à eux qu'on doit la vie.
Absolument. Il y a un recyclage de la matière et bien souvent, les étoiles en explosant en créent des nouvelles. Donc c'est vraiment une filiation. Et en ce sens, la métaphore de ce soir sur les bébés, les embryons, etc. évoque beaucoup le cycle de la vie, le cycle de la formation des étoiles. Et il y a vraiment effectivement une évolution qui se fait au fil des générations.
Donc les bébés humains naissent des bébés étoiles. Merci Thierry Montmerle.
À toi Daniel.
Alors un petit commentaire à la suite de cette interview. Non pas une conclusion.
Une très belle conclusion de ton interview d'ailleurs.
Oui, alors c'est un peu anthropomorphique, on l'a dit à deux reprises, et je crois qu'il y a quelque chose, il y a une analogie qui est extrêmement superbe à faire également, parce qu'on parle beaucoup d'évolution des corps de l'univers, on parle de leur âge, que devient une étoile, comment vieillit un soleil, etc. etc. Mais Thierry Montmerle a mis l'accent sur un phénomène qu'on oublie souvent. C'est que lors d'une évolution d'un corps, on a, notamment pour ces jeunes étoiles, on a une éjection de matière. Et il l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas de concentration de matière, il n'y a pas évolution si en même temps il n'y a pas d'éjection. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui se rassemblent et d'autres qui sont éliminés au cours de l'évolution, de la maturation de ce corps céleste. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en biologie, c'est-à-dire que ça s'appelle la différenciation. C'est à partir d'un certain moment, et c'est pour ça que l'analogie avec l'embryon n'est pas tout à fait gratuite, parce que finalement, qu'est-ce qu'on observe dans la formation des étoiles, comme l'a montré Thierry Montmerle, ou dans la formation des planètes, on a des phénomènes de différenciation, c'est-à-dire que les matériaux se rassemblent, s'affinent, se rassemblent par affinité, et c'est comme ça que mature un corps céleste, et c'est comme ça, par exemple, que cristallise une roche, à partir d'une argile informe. Peu à peu, dans la cuisson, vous avez en fait dans les profondeurs du sol un rassemblement, les cristaux se forment, et ça c'est un phénomène de différenciation avec des éliminations en même temps. C'est une espèce de... on crée comme cela des entités nouvelles par choix, en fait, par choix des éléments. Hein, la nature choisit elle-même. Donc ça c'est très intéressant, c'est un phénomène un petit peu nouveau en astronomie, pour nous en tout cas.
Merci Daniel, on fera un dernier petit point après la pause musicale. Juste avant, on vous pose la question qui vous permettra de gagner des places pour la conférence dont on va vous parler juste après, l'origine de la Lune, la conférence. Donc là, la question est bien sûr sur la Lune. Et en fait, on vous demande combien d'hommes ont marché sur la Lune à deux près. Donc on est assez gentil, en sachant que bien sûr, ce ne sont que des Américains, vu qu'ils sont arrivés par les sondes Apollo. Normalement, si vous regardez dans un dictionnaire, il y en a certains qui n'ont pas décollé, d'autres qui n'ont pas atterri. Bon, normalement, vous devriez vous en sortir pour calculer combien il y avait de personnes, en sachant qu'ils partaient à 3, il y en avait deux qui avaient la chance d'atterrir. Donc, à partir de là, vous faites un petit calcul rapide et vous êtes à deux près. Donc, si vous en loupez une, vous téléphonez. Si vous êtes trop loin du compte, et vous recherchez dans vos dictionnaires ou dans vos informations sur Internet ou vous demandez à votre grand-mère.
Vous retentez le coup.
Et vous tentez le coup juste après. Donc, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62 pour gagner des places pour la conférence du 16 novembre de Willy Benz sur l'origine de la Lune, le 02 40 93 26 62. Nous, on va prendre une petite pause musicale pour vous permettre de chercher justement ces informations-là. Après, Daniel Warling va vous finir de vous présenter faire le compte-rendu de la conférence. On va conclure la conférence de Thierry Montmerle. Après, notre ami Fabrice Dubreuil s'attaquera à son parti favorite, ses Actu Astro, pour vous donner des nouvelles du monde. Et pour après, on parlera enfin, entre guillemets, parce qu'on vous en parle depuis le début, de l'origine de la Lune, pour vous présenter conférence. Et après, il y a notre ami Maël Tominet qui s'attaquera au booster des navettes spatiales, avec une histoire de cul de chevaux. Je vous en dis pas plus, mais bon, ça a l'air d'être à moitié bizarre. On ne sait pas ce qu'il a encore fumé, Maël, mais bon.
Non, je connais l'histoire, elle est croustillante en effet.
Ouais. Donc on verra bien ce que
va nous sortir. Je ne m'y connais pas en chevaux, non, ni en jument d'ailleurs.
Je suppose qu'il nous fait mal, quoi. Donc, il paraît que ça a à voir avec l'astronomie, donc on va bien voir.
Mais oui.
Non mais je le charrie un peu parce qu'il est en train de nous regarder là-bas dans la régie. Donc voilà, tout le monde se fend la gueule dans la régie, je vous explique pas, c'est facile pour se concentrer. Alors, merci les enfants. Quel est le nombre de personnes qui ont marché sur la Lune à deux près? Et tout de suite, nous avons une petite pause musicale, on se retrouve juste après sur Alternante avec Pulsar.
Alors nous faisons donc la conclusion
de la conférence
de Thierry Montmerle.
Qu'il a effectué, pour ceux qui nous rattraperaient en cours, qu'il a effectué le 12 octobre.
Le vendredi 12 octobre. Et alors on a effectivement, cette interview était déjà assez intéressante et reflétait assez mal finalement sa conférence, mais ça c'est un peu normal, c'est pour ne pas redonder d'une part, et puis ensuite la conférence présente aussi un autre intérêt, c'est quelque chose qui est c'est une entité à part entière. Et alors ce qui s'est passé lors de cette conférence, ce qui m'a beaucoup séduit,
était magnifique, hein, faut vraiment
voilà,
souligner,
qui était extraordinaire,
qui était très, très
de
bien.
Clarté, voilà. De rigueur. Chaque chose était enchaînée, était présentée, enchaînée à ce qui précédait d'une manière tout à fait magistrale. Et alors ce qui...
preuve de maîtrise du sujet et puis de la parole et de la
pédagogie. Respect du public. Et ce qui m'a beaucoup séduit, et le public également, c'est que finalement Thierry Montmerle réussit à...
Déjà, il s'appelle Thierry, déjà.
Très, très, très juste.
Non, mais c'est des premières raisons.
Et il a réussi cet amalgame... entre les données les plus éparses de l'astronomie, entre les phénomènes qui sont très lointains et très actuels et très difficiles, hein, toute cette astronomie de l'invisible qu'on en a parlé, mais également en reliant ça à des choses qui paraissent banales, les planètes, la formation des planètes. On a aussi des enseignements qui nous viennent de l'étude du système solaire qui complètent toutes ces données. Et donc il a montré que la science, même si on est spécialiste d'un domaine, eh bien ça fait toujours appel à un ensemble de connaissances, on va dire une culture. La culture scientifique, ça reste malgré tout absolument indispensable aux chercheurs. On ne peut pas se transformer en super technicien d'un domaine. On ne peut pas faire de science si on a des œillères. Il faut véritablement avoir une maturité. La maturité, c'est d'avoir cette culture. Et ça, Thierry Montmerle, c'est un homme passionné, c'est un homme qui couvre son domaine et qui a cette culture-là. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'une conférence. On sort de là. Bien sûr, on a appris des choses, mais on ne va pas à une conférence pour ouvrir un dictionnaire. Il faut peut-être le rappeler. On a de moins en moins ce modèle d'auditeur, il se fait plus. Hein, c'est un peu dépassé, mais on avait ce modèle qui venait pour glaner des trucs, comme quand on ouvre un dictionnaire. Je veux savoir à quelle distance se trouve telle chose, un chiffre, s'il vous plaît, monsieur. C'est scolaire, c'est fini ça. Ce qu'on vient chercher, c'est un nouvel éclairage, c'est une façon de parler, c'est une passion, et on sort de là, et même si on n'a pas tout compris, on en ressort grandi, parce que on s'est dit tiens, voilà comment il faut voir les choses, comment il faut faire de la science, et puis si je veux en savoir plus, je vais ouvrir mes bouquins.
Pour les spécialistes, gens qui viennent régulièrement nos conférences, c'est vrai qu'en plus il abordait des sujets qui sont rarement abordés ou qui sont
difficiles,
comme les rayons X, les rayons gamma. On parle beaucoup de rayons infrarouges, voilà. Parce que les gens qui viennent régulièrement en conférence et qui écoutent Pulsar ne savent à peu près ce que c'est, ou plutôt à quoi ça sert. C'est vrai que le rayonnement X, etc., ça a été très très bien présenté, même à la base. C'est vrai que moi j'ai été très agréablement surpris. Je pensais qu'elle allait être assez ardue. Et en fait,
c'est le
pari des conférences.
C'est le pari de nos conférences, c'est de présenter, c'est d'ailleurs notre slogan, les données les plus actuelles sur l'univers, des conférences, de grandes conférences, hein, pas des petits machins, conférences pour tous, accessibles à tous, etc. Et bien sûr, il y a un degré d'accessibilité, hein, c'est toujours des choses vraiment difficiles, mais elles restent tout à fait accessible et plaisante.
Et le but en fait de Pulsan, c'est aussi de vous aider pour
c'est de vous dire
donner quelques bases avant d'y aller, puis aussi de faire une conclusion entre guillemets avec vous après la conférence pour ceux qui ont assisté.
Voilà, alors on peut dire pour résumer que ça valait vraiment le coup et qu'on a on a appris plein de choses, mais surtout on est sorti heureux.
Merci Daniel pour les fans de Daniel. Ne sortez pas vos mouchoirs, il va revenir tout à l'heure pour nous présenter la conférence de Willy Benz sur l'origine de la Lune.
Bon bah je me fais plus d'illusions, j'ai passé la cinquantaine, on m'écrit plus pour me demander en mariage maintenant.
Ah bon, c'est fini.
Non, c'est fini.
Ça passe qu'ils perdent. On t'écoute, voilà. On boit tes paroles.
Et ceux qui sont endormis, réveillez-vous maintenant, vous pouvez écouter de la musique.
Voilà, maintenant réveillez-vous puisque en fait... la chronique tant attendue de certains et de certaines. Nous avons la chronique, les actus astro par notre ami Fabrice Dubreuil.
Le chroniqueur.
Alors comme disent les intimes, Fabrice Dubreuil, c'est à toi.
C'est à moi.
Voilà.
Ben que dire. Si dire que le mois a été riche en événements, c'est vraiment un très doux euphémisme. Là,
t'as eu du boulot pour synthétiser ça.
C'est
en
même plus du boulot à ce niveau-là. On synthétise plus, on supprime, on élimine les événements parce qu'il n'y a pas autre choix.
On différencie.
Voilà, c'est ça.
On élimine, on disperse, on ventile.
Voilà, façon puzzle.
Façon puzzle.
Donc je vais commencer. Un peu comme de coutume, par la Station Spatiale Internationale.
Ah, les petites nouvelles de la Station Spatiale. Voilà. On va faire une série avec un petit
jingle. Non, mais surtout parce que ce mois-ci, c'est quand même l'un des grands événements du mois, puisqu'il y a eu la mission Andromède. La mission Andromède, c'était une mission réalisée entre la Russie et l'Europe. Mm-hmm. Elle a permis à Claudie Aigneré d'aller passer 8 jours à bord de la station.
Qui est une Française.
C'est une Française, c'est une spationaute française.
Elle s'appelait André Dehaye, et puis elle a épousé monsieur Aigneré.
Qui est spationaute et directeur des spationautes européens.
Voilà, qui est quand même... ouais.
Mais qui était connu.
Comme on dit, voilà. Tous les deux s'envoient en l'air. Allez.
Tout à fait.
Donc, cher Thierry, ouais.
La mission.
Ils sont partis dans l'espace, c'est pas. C'est toi qui va le placer.
Où sommes-t-on, comme disait Coluche.
Ouais. Donc, la mission a décollé de Baïkonour le 21 octobre. Ils sont donc partis, il y avait Claudie Aigneré et 2 cosmonautes russes. Je vous passerai les noms en russe d'abord parce que je n'ai pas les prononcer. Ils sont partis à bord de la Soyouz et ils ont rejoint l'ISS le 23, sans problème. Il y avait de nombreuses expériences qui étaient prévues au programme. Expérience de biologie, expérience d'astrophysique, observation de la Terre aussi, c'est très intéressant à faire comme expérience, c'est-à-dire que depuis la station spatiale, il peut observer par exemple la déforestation, tous ces phénomènes-là, c'est beaucoup plus simple.
Les quoi ?
La déforestation, les zones de pollution,
etc.
Un certain nombre de choses, la pollution lumineuse aussi, accessoirement. Et donc, il n'y a pas eu de problème, les expériences parfaitement réalisées. Et il y a également eu un autre événement, enfin... Une autre action importante pendant cette mission, c'était le remplacement du module de secours. Puisqu'il faut savoir que sur l'ISS, comme j'avais sur Mir, il y a un vaisseau, un Soyouz, qui est toujours accroché à la station au cas où il y aurait le feu ou n'importe quoi pour qu'il puisse évacuer. Mais le vaisseau, ben, c'est un peu comme beaucoup de choses, il y a une date de péremption. Et de temps en temps, il faut l'enlever parce qu'il commence à s'abîmer par les frottements, les particules, tout ce qui traîne là-haut. Donc il a été remplacé, il n'y a pas eu de problème. Donc, ben, Claudie Aigneré, quand même, c'est un personnage hein, qui commence à être important maintenant, puisqu'elle avait été la première femme non russe à aller à bord de Mir. Mm-hmm. Elle est maintenant la première femme à avoir été à bord de l'ISS.
Et la première européenne.
Et la première européenne. Et donc, le 31 octobre, quand ils sont revenus sans problème sur Terre, elle s'est prêtée un peu à la comparaison. C'est normal. Donc, conclusion, l'ISS, c'est vraiment très bien quand on veut faire des expériences. Technologiquement, techniquement, c'est impeccable. C'est vraiment à côté Mir, on pouvait s'accrocher. Par contre, au niveau logement des cosmonautes, des spationautes, Mir, c'était quand même mieux. Alors, quand on connaît ce que c'était que Mir, on a quand même des craintes à avoir quant à l'avenir de l'ISS comme hôtel 3 étoiles. Parce que déjà que Mir, c'était pas ça. Alors, si c'est pire, c'est tout dire.
Alors, c'est très bien, en fait, qu'une Française... c'est vrai qu'on ne fait pas de sexisme ou dans l'autre sens pour le plaisir, mais c'est vrai que c'est très bien qu'une femme... En plus, je pense qu'elle est... Elle c'est pas n'importe qui. Hein,
Claude, non. Puis elle a
un bagage technique impressionnant. Donc c'est vrai qu'elle est, elle est bien. Elle représente bien notre pays. Je trouve que c'est agréable d'avoir des gens comme ça.
Il va finir comme chevalier Laspalès pour une femme, etc. Attention. Hein.
Non, quand même. Mais c'est vrai que c'est bien quand même. C'est quand même l'Europe. C'est quand même la première personne de l'Europe qui part dans la Station Spatiale Internationale et elle est française.
Tout à fait.
Donc on peut être fier.
Et c'était aussi le premier vol vers l'ISS depuis le voyage de Nice Tito. Enfin, depuis Baïkonour, parce qu'entre-temps, il y avait la navette qui était allée, mais en ce moment, la navette décolle plus pour cause de... on ne sait jamais si un missile a shooté la navette au décollage.
Voilà.
Donc, apparemment, elle décollera au mois de novembre. Enfin bon, passons. L'autre grand événement du mois, c'est, Thierry en a parlé tout à l'heure, la mise en orbite de Mars Odyssée. Donc elle est, la sonde était partie le 7 avril dernier. Et Mars Odyssée, déjà, il faut savoir, son nom, elle, son nom est un hommage. C'est-à-dire que c'est pourquoi elle s'appelle Odyssée, parce qu'on est en 2001, que la sonde a fait son voyage en 2001, et qu'il y avait un film qui s'appelait 2001, l'Odyssée de l'espace.
Bravo, c'est année, bien.
C'est bien, ça c'est de la formation,
ça c'est de la culture.
Voilà.
Tu savais pas, toi, non, moi non plus. Merci Fabrice.
De rien. Enfin bon, elle se devait d'arriver quand même, parce que la NASA, sa crédibilité était un peu écornée, parce qu'elle a quand même perdu Mars Climate Orbiter et Mars Pathfinder. Je ne veux pas remettre couteau à la plaie, mais ça faisait un peu tâche. Donc là, la sonde, elle a parcouru une fois de plus les 460 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars. Et puis elle est arrivée près de Mars le 24 octobre. Ils ont activé le protocole de freinage, il n'y a pas eu de problème.
Alors attends, Mars c'est à combien de kilomètres là ?
460 millions de kilomètres elle a parcouru.
460 millions, c'est-à-dire qu'en fait, en principe, au plus loin, elle est à 800, c'est vrai. 400,
elle a mis, 400 elle a mis environ 200 jours à y aller.
Oui, mais elle a parcouru 400 millions de kilomètres parce qu'elle a un peu tourné. Elle n'est pas allée direct en fait. Parce que Mars est à...
Terre-Mars,
on le fait en direct.
Bah, Terre-Mars, au maximum, ça fait 300 millions de kilomètres. Non, ça fait 350, quoi, par là.
Oui, mais il faut rattraper.
Mais oui.
Enfin, bon. Oui, si tu prends en ligne droite, mais le problème, c'est quand tu pars, il faut partir.
C'est ce que je disais, oui. Ouais.
C'est que la planète, elle se déplace, elle t'attend pas. Enfin, toujours est-il qu'à partir du 24 octobre, ils ont entamé les procédures de freinage. Et les procédures, elles sont claires. D'abord, on freine la sonde pour qu'elle se mette en orbite. Et après, on abaisse l'orbite doucement mais sûrement, pour finalement aller frotter l'atmosphère de la planète. Parce que sur Mars, il y a une atmosphère. Elle n'est pas bien espèce, mais il y en a une quand même. Et les panneaux solaires de la sonde vont frotter dans l'atmosphère. Ça va encore plus ralentir la sonde. Et finalement, elle va aller à son altitude de travail.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand elle était entre guillemets arrivée en retard ou qu'elle avait commencé en retard, c'est en fait ils ont changé les procédures de.
Tout à fait.
Donc elle a pris deux jours de retard dans ses premières photos.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle a tout à fait normalement. Tout à fait normalement. Elle a atteint l'atmosphère de Mars qui était prévue le 28 octobre. Là, les panneaux commençaient à frotter. Et bon, c'est vrai que les Américains étaient très contents, leur sonde était arrivée, donc c'était pas le moment de la perdre. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont ralenti l'angle d'inclinaison de pénétration de l'atmosphère, si bien que les panneaux ont beaucoup moins chauffé, parce que ça chauffe quand même pas mal quand ça traverse l'atmosphère. Et c'était vraiment pour éviter, on ne sait jamais, qu'ils cassent. Normalement, il n'y avait pas de problème, mais bon.
On prend des précautions voilà. Quand on arrive au bout.
Et donc finalement, ils ont pris leur première photo le 31. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on voit la photo...
On ne peut pas dire qu'on vous donne des infos qui sont vieilles. Hein.
Elle est étonnante cette photo. Alors si je vous rajoute que c'est qu'une photo de calibrage des instruments, mais que ce n'est pas du tout une observation, c'est juste fait. Ils ont pris une photo un peu comme ça au hasard pour voir ce que ça donnait. Quand on voit le résultat, ça va donner, comme on dit. Oui.
C'est vrai qu'on critique souvent nos petits amis américains, mais là, ils ont fait une bonne chose avec leur
sonde. Là, ils ont fait très fort. Là,
donc là, elle est très très bien, cette sonde.
L'autre, il y a une autre sonde...
Ils savent construire des tours, quand même.
Oui, bon. Il y a une autre sonde dont on ne parle plus beaucoup, mais qui a fait parler d'elle ce mois-ci, c'est Galileo. Galileo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle est partie il y a longtemps.
Il n'y avait même pas Plusson à l'époque.
Elle est partie. Bon,
oh là là, c'était sous la préhistoire.
C'était au siècle dernier.
Absolument.
C'était au siècle dernier, elle est partie tout à fait. Et elle a rejoint le système de Jupiter. Elle a déjà découvert plein de choses, qu'il y avait de l'eau dans l'Europe, qu'il y avait plein de choses intéressantes.
On le savait ça, mais bon, elle a donné des photos beaucoup plus précises de la surface.
Non, c'est elle qui a découvert qu'il y avait un champ magnétique sur l'Europe.
Un champ magnétique.
De l'eau, il y en avait, on savait qu'il y avait un océan. Enfin, on en a fait l'hypothèse.
Maintenant, on en a la certitude, puisqu'il y a quelque chose de liquide, donc il y a du mouvement à l'intérieur. Il y a un champ magnétique. Donc, elle avait
pour
déjà
ceux qui le savent pas, il fallait venir à la conférence de Christophe Sautin l'année dernière.
Ah, de toute manière, dès que vous ne savez pas quelque chose, c'est que vous avez dû louper une conférence. Ça, c'est clair.
Donc, toujours est-il que Galileo est toujours dans le système de Jupiter, et en ce moment, elle survole Io. Et Io, c'est la pizza de l'espace, si vous l'avez déjà vu en photo, c'est un volcan, c'est très volcanique. Et il s'est passé quelque chose, c'est que Galileo était au-dessus d'Io, et un volcan est en train d'éruption. Ça arrive, de temps en temps. Et quand un volcan entre en éruption sur Io, les particules montent à 500 km d'altitude. Donc, Galileo a traversé le nuage de particules après quelques observations, ce qui, pour l'instant, on sait un peu ce que c'est rapidement, mais on va continuer à faire des études, parce que ça pourrait être assez intéressant de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de Io, puisque les particules viennent directement à l'intérieur de la planète, c'est une éruption volcanique.
Ouais, c'est vrai que ça permet d'avoir des informations sur la structure interne.
L'intérieur du satellite, d'ailleurs. Donc Galileo va continuer sa mission, elle va survoler Io encore une fois en janvier 2002, elle finira en 2003, mais d'ici là on aura le temps d'en reparler.
Il faut quand même en parler, c'est qu'on a loupé, on a failli, encore être soldé par un échec cette mission à cause d'un problème de panneau émetteur
qui était collé.
Côté collé en fait, en fait c'est plus la graisse qui devait permettre de l'ouvrir qui a gelé dans l'espace.
Voilà.
Et en fait ils ont été obligés de se fier à la petite antenne au lieu de la grosse antenne d'émission. C'est vrai qu'ils ont bien bossé aussi au sol pour changer les technologies de compression et en fait rattraper une mission qui était très très mal partie au départ. Lors de son départ.
Il y avait un chewing-gum dans les panneaux.
En gros, c'était ça. C'est-à-dire que
normalement, il y avait une grosse antenne pour envoyer les données et
c'est jamais
pour gérer la mission. Et en fait, ils ont été obligés de tout faire par la petite.
Parce que l'antenne d'émission des données, c'est jamais déployé.
Voilà.
Enfin bon, revenons sur Terre, puisque bon, sur Terre, il ne se passe pas des choses très sympas. Et bon, il y a aussi des choses pas très gaies, puisqu'il y a quand même deux disparitions importantes ce mois-ci.
Ah oui.
Eh oui, le premier dans l'ordre, je le prends dans l'ordre, c'est Vassili Michine. Alors si vous ne savez pas qui c'est Vassili Michine, Vassili Michine c'est un des pionniers d'astronautique russe, c'est le père des N1 entre autres, pères des N1. En 66, c'est lui qui a pris la place de Korolev à la tête du programme spatial russe. C'est lui qui n'a pas envoyé un russe dans l'espace, qui n'a pas envoyé un russe sur la Lune et qui d'ailleurs avait fait un excellent livre en 91 sur le sujet. Pourquoi nous n'avons pas été sur la Lune et qui raconte bien les choses. Eh bien, il est mort le 10 octobre à 84 ans.
C'est mort, comme on dit.
Voilà. Et l'autre grand nom qui nous a quittés, c'est Albert Ducrot. Et Albert Ducrot,
J'ai hésité à en parler tout à l'heure et je me suis dit, Fabrice l'a sans doute prévu.
Oui.
Donc, on ne va pas lui déflorer le sujet. Par contre, j'en aurais parlé si tu n'en avais pas parlé.
Albert Ducrot, c'est un très grand journaliste. Très grand journaliste à qui on doit beaucoup, ne serait-ce que parce que c'est l'un des premiers en France à avoir considéré que la conquête spatiale et le voyage dans l'espace étaient intéressants et étaient dignes
d'être diffusés,
qu'on en parle dans les médias. C'est lui qui est l'un des premiers, dans les années 60 par exemple, à la fin des années 60, à décider qu'il fallait parler de l'homme sur la Lune, c'est tout bête, mais s'il n'y avait pas eu des gens comme lui, Apollo 11 en France... ça serait passé un peu...
Moi, j'ai vu Albert Ducrot à Strasbourg, justement, après le retour de la mission Apollo 11, présenter la pierre de lune. Et effectivement, donc, il a une chaleur, il a une passion extraordinaire, cet homme-là. Et en même temps, c'était un membre de la Société Astronomique de France, éminent de la SAF.
Puis il était encore actif jusqu'à la fin, parce qu'en fait, on avait reçu des messages de lui les quelques jours avant sa mort.
Mais même, on peut dire que, même tellement actif, que c'est pas sur le même radeau que nous, mais... sur Europe 1 pour pas les citer, Albert Ducrot continue à faire ses chroniques tous les jours et il va beaucoup manquer. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, il est mort à 80 ans, c'est aussi une belle mort. Mais bon, après ces nouvelles pas très gaies, retournons dans les profondeurs de l'espace. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On vient de découvrir 8 nouvelles planètes extrasolaires. Et sans vouloir te contredire, Daniel, il y a peut-être bien 47 systèmes extrasolaires.
Il y a 47 systèmes extrasolaires.
Mais avec ces 8 planètes, on passe au-dessus de 80 planètes extrasolaires détectées, ce qui commence vraiment à faire pas mal. C'est une annonce qui a été faite et confirmée le 15 octobre par la NSF, alors je ne sais plus ce que ça veut dire NSF, et par la NASA. Et c'est le résultat d'un programme...
C'est pas la National Space Foundation,
NSF ? Oui, un truc comme ça, oui, c'est ça. C'est le résultat d'un programme de recherche systématique qu'on fait en ce moment... on a pris 1200 étoiles et puis bon, on les observe les unes après les autres. On fait ça à la fois à Hawaï, à Santa Cruz et en Australie, au New South Wales. Faut pas rêver non plus, on n'a pas détecté de nouvelles terres. Ce sont quand même des planètes qui font entre 0,8 fois et 10 fois la taille de Jupiter. Mais c'est vrai que quand on repense aux premières images qu'on avait vues aux conférences de la SAN,
de
Beta Pictoris, c'est qu'on voit que maintenant on est rendu à plus de 80 planètes. Il y a quand même
Et c'était en décembre 91 ou 92, je ne sais plus, ou même 93, mais c'était 3 mois après l'annonce de la découverte de 51 Pégase par Mayor et Kellos.
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on voit là, déjà en 8 ans, le chemin parcouru est assez énorme et ça permet d'avoir pas mal de bons espoirs. Je vais terminer la chronique par quelques petites nouvelles en vrac, quand même.
Vas-y, en vrac.
Allez. En vrac. Alors, tout d'abord, la démission de l'administrateur de la NASA. Eh oui.
Oui.
Daniel Goldin a quitté son poste le 17
octobre. Répète, parce que les gens vont croire que c'est moi. Daniel, comment ?
Goldin.
Voilà.
C'est pas toi. Tu n'es peut-être pas administrateur de la NASA.
Quoique, c'est mieux, il est président de la SAN.
Voilà. Donc, il a démissionné de son poste pour raison personnelle le 17 octobre. Enfin, il est encore à la tête. Il a dit qu'il restera jusqu'au 17 novembre pour aider son successeur à prendre la suite. Bon, globalement, il considère que le travail accompli est très bon, mais il a juste un regret, c'est qu'il n'aura pas été celui qui aura fait que la NASA envoie un homme sur Mars. Mais c'est peut-être pas forcément de sa faute, il y a un président qui donne pas de sous. Ouais. Signalons quand même une chose sur Daniel Goldin, c'est qu'il a été décoré le 30 octobre de la Légion d'honneur. Et c'est intéressant de le signaler parce que c'est très rare qu'en France, on donne la Légion d'honneur à un étranger. Ah, et oui. Là, on lui a donné au titre des services rendus dans l'amélioration des relations franco-américaines dans le domaine spatial.
Ah oui, c'est bien voilà. Souligné. Mais si, il est bien ce Fabrice avec ses actus, hein. C'est bien.
Il a raison de souligner des faits pareils, parce que c'est aussi ça qui fait avancer les choses.
Tout à fait.
Parce qu'on croit toujours que la science, c'est un fait qui s'enchaîne à un autre fait, un résultat.
Il faut toujours des gens pour...
Mais c'est une aventure humaine. Il faut des gens pour pousser, il faut des gens pour décider. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre, qui n'associent pas leur nom, hein, au firmament.
Comme le directeur de la NASA.
Voilà, mais qui ont un travail considérable, et sans eux, ça ne se ferait peut-être pas non plus.
Bah, tout à fait. Non, mais typiquement, une mission comme Cassini-Huygens, ça ne pouvait pas avoir lieu sans lui, hein, non, typiquement. Petite information encore, sur les trous noirs, tu parlais tout à l'heure des trous noirs. Ben, les trous noirs, XMM, qui est un satellite européen, rappelons-le.
XMM-Newton, je crois qu'il s'appelle.
Ouais, XMM-Newton. XMM, c'est X-ray multi-mirror mission.
Voilà. Ah bon.
A observé des trous noirs. Et on a pu détecter... Comment dire, le dégagement d'énergie qui est produit par un trou noir. C'est-à-dire qu'un trou noir, bon, bah, ça émet l'énergie. D'ailleurs, c'est assez étonnant à voir. Je sais pas, il faudrait peut-être que tu en parles. Tu réfléchis là-dessus, toi, Daniel, qui réfléchis pas mal sur tout ce qui est relativité et tout ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un trou noir, je veux juste signaler ça, ça absorbe tout, mais ça émet l'énergie. Pourtant, la lumière, c'est l'énergie.
Non, mais ça n'émet. C'est pas le trou noir qui émet, c'est le trou noir qui provoque l'émission dans les zones adjacentes. Très probablement, mais bon.
Ouais.
Mais bon.
C'est vrai que c'est assez spectaculaire.
C'est assez étonnant. Puis bon, dernière chose quand même. C'est bizarre, j'étais vexé. J'étais quelque peu vexé. J'avais décidé aujourd'hui d'être gentil et de ne pas faire de page nos amis américains. D'abord parce que Maëlle va en faire une très belle, donc j'allais pouvoir m'en dispenser.
Ils ne peuvent pas s'en passer, décidément.
Mais, je le donne en mille. J'ouvre mon internet ce soir pour prendre les dernières chroniques. Et là, qu'est-ce que je vois ? Les Américains nous viennent d'annoncer vendredi dernier que la sonde Genesis. Alors Genesis, c'est une sonde qui est partie il y a quelques mois en direction, pour l'instant, elle va vers le point de Lagrange, mais elle doit observer le Soleil, s'orienter vers le Soleil et capter des particules de vent solaire.
Très énergétique,
très énergétique, très chaude. Enfin, pas autant les particules, mais surtout capter donc, les particules qui pourraient être à l'origine de la Terre. Enfin, similaire. Manque de bol, le système de refroidissement est en train de tomber en panne, et la NASA annonce qu'ils ont 90% de chance que le système passe en surchauffe, les composants fondent, et que la sonde soit perdue corps et bien. Je ne l'ai pas fait exprès, ils m'ont donné le truc sur le plateau. Je terminerai là-dessus.
C'est vraiment rien. Merci Fabrice. Tout de suite, nous allons aborder la suite de l'émission. On va vous parler de l'origine de la Lune avec Daniel Orling. Alors, je vous rappelle que vous gagnez des places pour la conférence que vous présentez, Daniel, dans quelques secondes. Pour ça, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Et puis, vous donnez la réponse à la question suivante. Combien d'hommes ont marché sur la Lune ? Si vous ne savez pas trop, vous téléphonez, vous verrez bien si c'est ça. Si c'est pas ça, bien, vous avez en plus de l'aide, c'est à deux personnes près. Et si jamais vous avez une mauvaise réponse, vous raccrochez et vous retéléphonez pour essayer de gagner des places pour la conférence du vendredi 16 novembre par Willy Benz, que va nous présenter Daniel Worling tout de suite.
Ah, Willy Benz, nous l'avons fait venir parce que c'est une de nos adhérentes qui l'avait entendu, qui l'a trouvé passionnant. Parler de la Lune, ça paraît banal aujourd'hui. Et puis quand on approfondit le sujet, notamment sur l'origine de la Lune, eh bien, tout d'un coup, on apprend plein de choses. Alors moi, j'ai retrouvé un article de Willy Benz de 1987 dans La Recherche. À l'époque, Willy Benz était, je vais vous dire ce qui est marqué, Willy Benz travaille en association avec le groupe d'astrophysique théorique de Los Alamos National Laboratory à Los Alamos. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui est passionné. Et donc là, il a travaillé aussi avec le professeur Mayor à Genève. Donc il travaille à Genève. Lui, il travaille à l'université de Berne. Et donc, je vous en dis pas plus parce que c'est quelqu'un de...
C'est un Suisse qui vient. Donc voilà. C'est un peu une entorse. Bah, pas une entorse,
c'est une nouveauté.
On est content de voir un peu que vont nous présenter les Suisses.
Alors, il est professeur de physique à l'université de Berne. Alors pourquoi il s'est passionné pour la Lune, ça on lui posera peut-être la question quand
pour
il viendra.
On n'a pas la réponse, hein. Tout à fait.
Que dire sur l'origine de la Lune? Alors c'est une question qui continue de préoccuper les chercheurs, c'est quelque chose qui est très actuel. Alors je ne vous donnerai pas la réponse, même si je l'avais, j'éviterai de la donner. Par contre, j'ai parcouru cet article, et bon, les grandes questions c'est quoi? La Lune, en fait, alors il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que la Lune est un morceau de la Terre? C'est-à-dire qu'est-ce que quelque chose a heurté la Terre et ça s'est cassé et ça a donné la Lune?
Première hypothèse.
Est-ce que la Lune s'est formée en même temps que la Terre? Au moment où la Terre se formait, d'autres débris auraient donné la Lune. Troisième hypothèse, est-ce que la Lune a été capturée par la Terre lors de ses pérégrinations et que la Lune serait été une planète si la Terre ne s'était pas pointée dans ses parages et l'aurait finalement mise en orbite?
La grosse difficulté, c'est qu'on n'était pas là pour prendre des photos. Alors on est obligé de prendre l'existant et puis essayer de faire des tests dans des simulations numériques pour essayer d'avoir la réponse.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces trois hypothèses, du moins dans leur formulation initiale, ne tiennent pas la route, comme on dit. Par exemple, l'hypothèse de la fission, c'est-à-dire que la Lune serait un morceau de la Terre, elle est corroborée par effectivement la Lune qui s'éloigne de la Terre progressivement. Mais d'un autre côté, quand on regarde la composition des roches, et notamment avec le fluor, enfin certains éléments ou certaines substances comme l'eau, ça ne colle plus. Donc cette hypothèse ne tient pas. La deuxième hypothèse, ça serait produite en même temps. Alors l'hypothèse, c'est que comme la composition de la Lune est légèrement différente de celle de la Terre, il y a des hypothèses très savantes sur la différenciation chimique. Ça veut dire que au moment où les deux se sont formés, la Terre et la Lune, eh bien les matériaux, la Lune étant plus petite, elle accrétait, c'est-à-dire qu'elle
attirait
d'autres matériaux un peu que la Terre. Enfin, et cette hypothèse-là est dépassée pour des raisons physiques, de moments cinétiques. Je n'en dis pas plus. Simplement, ces deux hypothèses que la Terre et la Lune se sont produites en même temps. Ne tient pas non plus. Enfin, la troisième hypothèse de la capture, ça ne marche pas non plus. Mais alors, en fait, quelle serait
la réponse?
Alors, je ne l'ai pas, mais simplement, en 1987, la réponse qu'on a donnée, c'est qu'en faisant... Alors, on a réuni toutes ces données, la composition des roches, les simulations sur ordinateur, etc. Eh bien, on finit par convenir qu'en fait, c'est bien le résultat d'une gigantesque collision, mais il faut qu'elle soit gigantesque. Elle ne peut pas être simplement un gros météorite qui heurte la Terre. Il a fallu que ce soit carrément deux planètes à peu près de la taille semblable à la Terre qui se heurtent. Et puis finalement, il y a un morceau de la Terre plus un morceau de l'autre planète qui reforme la Lune, etc. Bon, c'est
en fait, la théorie, je pense, la plus en vogue, que moi j'ai bossé aussi un peu le sujet, c'est vraiment celle-là. C'est en fait une partie, en fait, une espèce de grosse planétoïde comme Mars ou vraiment une grosse chose à sa formation aurait tapé sur la Terre, l'aurait frôlé, même tapé dedans, mais un peu comme une boule de billard sur le côté, et en fait ça aurait fait éjecter toute une partie
du manteau terrestre,
qui se serait reconstitué sous forme de la Lune.
Alors on va pas,
Le problème serait que il n'y a pas de, entre guillemets, encore de version officielle.
Il n'y a pas de version officielle.
Sauf si Willibès nous emmène des dernières données.
Maintenant, depuis d'abord 1987 et même depuis les dernières données qu'on a pu lire à ce sujet, il y a sans doute eu beaucoup de progrès. Et c'est bien pour ça que nous allons entendre Willy Benz. On va l'interviewer également auparavant et on vous livrera cette interview. Rappelons la date, le vendredi 16 novembre.
Et ça arrive d'une conférence très grand public, donc il ne faut surtout pas hésiter à venir.
Il faut venir, il y a 400 places, donc on devrait. C'est au Bretagne, la salle Bretagne, rue Villebois-Mareuil, derrière la rue Paul Bellamy. Enfin, vous cherchez un peu.
Vous avez le plan sur Internet.
Voilà, on a un site Internet, tu rappelleras l'adresse tout à l'heure et vous pourrez...
Sainte-Claire.com, parce qu'autrement après j'oublie.
Ah oui, mais enfin faut le dire à ce moment-là, plus vous avez le temps de noter. SAN, donc san-fr.com. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de cette conférence. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'elle a beaucoup de chances d'être passionnante. Mm-hmm. Je dis pas qu'elle risque d'être passionnante, parce que c'est positif.
Hein. Par rapport à la conférence de Thierry Montmerle qui parlait des phénomènes de grosses énergies, la force des étoiles, là on va parler quand même d'un objet qu'on croit bien connaître et qu'on connaît pas si bien.
Dans toutes ces hypothèses, on fait appel quand même à la convergence, tout un tas de données qui sont pas uniquement sorties de l'astronomie. Enfin bref, ça va être passionnant.
Donc pour les gens qui voudraient être passionnés, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62. Il reste encore quelques places à gagner et vous nous répondez à la question suivante. combien d'hommes ont marché sur la Lune, qui change un peu. Et la fête du soleil, ça peut être que pour une émission d'astronomie.
Le soleil a rendez-vous avec la Lune. Hein,
ça aurait pu.
Il n'est pas là, le soleil attend. Mais nous, on n'attend pas. Et tout de suite, nous passons la parole à monsieur.
Non, pas tout de suite. Juste avant, on va le présenter quand même. Donc, c'est Maël Dominet qui va finir la dernière chronique de l'émission, qui va vous parler aussi, du diamètre des boosters de la navette spatiale, que tout le monde connaît par cœur, je suppose, le diamètre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que vous êtes déjà posé la question ?
D'où vient, pourquoi
ils ont tel diamètre ? À la rigueur, ils auraient pu faire le triple, le quadruple, deux fois plus petit. Donc Maël va s'atteler à la tâche, sans jeu de mots. Et vous êtes sur Alternante avec Pulsane, et la parole est donnée à Maël Dominet.
Donc je vais vous parler ce soir de la relation entre la navette spatiale et l'arrière-train des chevaux. À première vue, il pourrait paraître incongru de vouloir comparer le véhicule de transport le plus sophistiqué du monde avec le plus ancien moyen de déplacement de l'homme, fût-il sa plus noble conquête, avant celle de l'espace. Et pourtant. Mais tout d'abord, il convient de faire une petite page d'histoire. Les livres d'histoire nous l'ont enseigné, les premiers véhicules jamais utilisés à grande échelle étaient les chariots de guerre romains, il y a de cela plus de 2000 ans. Ça remonte pas à aujourd'hui.
Tout à fait.
Petite description. Ces chars sont des voitures à deux roues, ouvertes à l'arrière, fermées en arrondi sur le devant, servant au combat, au jeu, etc. On connaît ça, hein, on l'a vu dans des films, etc. Voilà. Or, observons bien ces chariots. Toujours répandus aujourd'hui à travers l'imagerie populaire, bien que de types très différents, ils ont toujours le même empattement. L'empattement étant la distance séparant les axes des essieux extrêmes d'un véhicule ou l'écartement entre les deux roues d'un même essieu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tirés par un attelage de deux chevaux côte à côte. Même si ce bon vieux Ben-Hur se met de temps en temps le trouble dans les arènes de l'empereur avec son quadrige à quatre chevaux. Or, les sabots de l'attelage lancés au grand galop, ayant tendance à maltraiter la terre battue des voiles de l'époque, fussent-elles romaines, il était indispensable que les roues du char ne s'inscrivent pas dans la continuité des empreintes, sous peine de chaos indésirable. Ouïe les fesses. Il fallait donc qu'elles se placent entre celles-ci. Ouais. L'écartement des chevaux étant lui-même déterminé par une distance de sécurité bien précise, qui les empêchait de se heurter au niveau du postérieur, niveau le plus large de leur anatomie. Une dimension standard se dégagea bientôt, qui détermina l'empattement de tous les chars romains.
Encore une histoire de cul, ça. Je ne sais pas si vous voyez Maël faire la version pour sourd-muet, mais on est à la radio, mon cher.
Vas-y Maël, continue, laisse-toi pas perturber.
Plus tard, les Romains déployèrent leurs légions sur tout le territoire européen, et pour accélérer cette invasion, ils se mirent à tracer des voies. Rapidement, les roues des chars y creusèrent des ornières correspondant à leur écartement.
Ce qu'on voit notamment à Pompéi, pour ceux qui ont été visités.
Écartement, des fois vous auriez loupé le début, qui est donc de la largeur de cul de cheval.
De deux culs de chevaux avec un espace de sécurité.
Voilà.
Deux culs, ce qui fait quatre fesses.
Exactement. Ouais. Là s'arrête le premier épisode. Nous nous retrouvons 2000 ans plus tard, toujours en Europe.
On parle toujours d'astronomie, hein, je vous rappelle.
On parle toujours, oui. Vous inquiétez pas, on y revient tout de suite. Et les constructeurs du 19e siècle respectent toujours le même écartement que leurs lointains ancêtres pour leurs diligences et autres véhicules à clé. Pourquoi ? Parce que durant toute cette période, pendant ces 2000 ans, les chemins n'ont jamais cessé d'être creusés d'ornières et qu'un espacement différent aurait provoqué la rupture de l'essieu du chariot. Finalement, on n'a pas beaucoup évolué.
Donc on est rendu au 19e siècle pour l'instant.
Exactement.
Pour l'instant, je crois pas que les boosters sont triés par des chevaux, mais on va sûrement trouver une raison. Allez, vas-y, continue.
Or, à cette époque-là, une grande invention se profilait à l'horizon. Le chemin de fer. D'abord urbaine, les premières voies étaient parcourues par des tramways tractés par des chevaux. Tractés par des chevaux, on voit tout de suite le rapport. Les personnes qui construisaient ces véhicules, attelées, étant celles qui fabriquaient les chariots, l'écartement fut conservé. Et quelques dizaines d'années plus tard, ces mêmes ingénieurs installèrent en Grande-Bretagne les premières lignes de chemin de fer et les premières locomotives à vapeur, sur le même modèle évidemment. Christopher Columbus, pas celui qui dirigea le programme Gemini, non. Ça n'a rien à voir, ce ne fut qu'un lointain homonyme. Christopher Columbus ayant déjà placé l'Amérique à un jet de voile, il était naturel que les voies ferrées américaines utilisent essentiellement des locomotives britanniques. Mondialement réputées et parfaitement au point. Le chemin de fer US...
On appelle d'ailleurs ça un cheval vapeur.
Exactement. Voilà. Le chemin de fer US importa donc machines et ingénieurs anglais qui utilisèrent ce même écartement, ce même empattement, déjà standardisé très précisément à 4 pieds et 8 pouces et demi, ce qui fait environ 1,40 m. Ah ah ! Mais on voit toujours pas le rapport.
Non, pour l'instant.
Nous sommes à la fin du deuxième épisode. Nouveau saut dans le temps, mais cette fois beaucoup plus court. Oh, pas très loin. Nous nous retrouvons dans les années 70. Et le Sénat américain vient d'approuver la construction d'un nouveau système de mise en orbite, la navette spatiale.
Tantantan.
Ah, on y arrive. Par soumission...
C'est un hennissement, enfin.
Par soumission, l'entreprise Thiokol, dans l'Utah, remporte la réalisation des deux propulseurs d'appoint.
L'Utah.
De boosters. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les boosters, c'est ces deux grosses fusées qui sont sur les côtés du réservoir principal de la navette. Ouais. Vous savez, le gros réservoir orange avec les deux gros propulseurs
blancs. L'anecdote, pourquoi il est orange ? Parce qu'en fait, ça coûtait trop cher de le peindre. Donc, ça faisait une grosse économie. Donc, maintenant, ils le mettent, ils le mettent directement, il n'est plus peint. Et ça fait une grosse économie au niveau argent.
C'est de la couleur anti-rouille.
Voilà.
Donc, l'entreprise Thiokol.
C'est joli comme tout. Hein. Ouais. Les boosters pour booster, en fait. Hein.
Voilà,
les,
c'est ceux qui donnent la poussée initiale pour envoyer le tout dans les airs. Ça n'a rien à voir avec les culs de chevaux encore.
Pour l'instant, on n'est pas encore rendu. Hein.
Quoique.
On y arrive.
Mais ces boosters, il va falloir les transporter entiers jusqu'au pas de tir à Cap Canaveral.
Et là, ils se disent, on va prendre des chars avec des chevaux.
Non, quand même pas. C'est là que ça devient intéressant. Pour ce transport, un seul moyen, le chemin de fer. Ah! Là, vous commencez à comprendre. Mais ce n'est pas suffisant, car ils auraient pu faire une plateforme de transport plus large que les roues.
Oui, ce qui est souvent le cas d'ailleurs.
Il y a donc le chemin de fer et aussi un tunnel. Sous les montagnes rocheuses. Or, ces structures devaient obligatoirement franchir ce tunnel. À peine plus large que la voie de chemin de fer, dont l'écartement correspond à la largeur de deux arrière-trains de cheval. Et voilà. Thiokol aurait bien voulu concevoir des boosters sur un modèle un peu plus large, ce qui aurait réduit bien des contraintes structurelles et amélioré la régularité de la combustion du propergol solide par accroissement de la surface interne. Mais aucune solution de remplacement dans un délai raisonnable n'ayant pu être déterminée pour assurer le transport de ces énormes engins par un autre moyen, il fallut donc bien se rallier aux normes de Jules César et ses confrères.
Mais c'est très bien, c'est une très belle histoire, mais c'est très bien cette continuité, c'est plutôt rassurant.
C'est rassurant, mais finalement, on se rend compte que ben, on n'a pas beaucoup évolué depuis Jules César.
Oui, mais si on avait changé tout cela, à quel titre et sous quelle bonne raison ?
C'est plus la performance,
c'est plus la fatalité, ou plutôt d'éviter de tout changer, tout bouleverser, puisque en fait, c'est vrai que c'est assez génial.
Et le plus drôle, c'est que les culs de chevaux, ils n'ont pas évolué.
Ils n'ont pas évolué.
Voilà.
Merci beaucoup, Maël, pour ces informations. Vous savez bien qu'avec Pulsan, vous savez toujours plein de choses, donc là, c'est encore une preuve de plus. Pour ceux qui ont gagné des places, qui ont eu des gagnants à la question qu'on a posée, combien de personnes ont marché sur la Lune ? Il fallait nous répondre 12. Il n'y a que 12 hommes qui ont marché sur la Lune sur la population terrestre totale.
C'est-à-dire quand on compte, il y a 24 pas. Hein.
Ouais. Oui. 24 pieds aussi.
24 tracés écartés comme les culs de chevaux, non ?
Alors pour ceux qui veulent savoir, hein, c'est parce qu'il y a eu de Apollo 11 à Apollo 17, sauf Apollo 13.
Ça fait 12 missions et il y a une moyenne de 2 hommes.
Par mission,
3, dont un qui restait en orbite.
Tout à fait.
Et je n'ai pas dit de cheval.
Ouais, orbite cheval. Oh là là. C'était la dernière allusion
intellectuelle.
La facétie de notre président préféré. La prochaine émission, c'est le lundi 3 décembre, premier lundi de chaque mois. Entre-temps, n'oubliez pas, le 24 novembre, les ciels du mois. Le 16...
Au Grand Blotreau.
Au Cèle du Grand Blotreau. Le 16, la conférence. Juste après, les Léonides. Déjà, ça vous fait 3 bonnes dates astronomiques à retenir dans le mois. Et nous donnons rendez-vous
et si vous les oubliez, regardez notre site internet, san-fr.com, et vous aurez toutes les informations dessus. N'est-ce pas, mon cher Thierry ?
Tout à fait, Daniel. À la prochaine. Merci à tous les participants. Merci à la technique, Claudie, et puis notre Jean national. À plus. À la prochaine.